Les apparitions de la très sainte Vierge Marie. El Palmar de Troya est le plus important de tous les lieux d'apparition qui aient été jamais. Les apparitions de la très sainte Vierge Marie à La Salette, à Lourdes, à Fatima, à Garabandal, et dans beaucoup d'autres endroits, ont été pour demander la prière, la pénitence, les sacrifices et que l'humanité cesse d'offenser Dieu. Au Palmar, en outre, le Seigneur a voulu créer le nouveau Saint-Siège de l'Église suite à l'effondrement du siège de Rome. À La Salette, 1846, la très sainte Vierge a pleuré et a annoncé un grand nombre de maux qui allaient arriver à l'Église et au monde, et les châtiments pour les blasphémateurs, profanateurs du dimanche et autres, malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, qui, par leurs infidélités et leurs mauvaises conduites, crucifient encore mon Fils. Les chefs, les guides du peuple de Dieu, ont négligé la prière et la pénitence, et le diable a obscurci leurs esprits, ils sont devenus des étoiles errantes que le diable traînera avec la queue pour les faire périr. Dieu permettra à l'ancien serpent de semer le désaccord entre ceux qui règnent. Dans chaque société et dans chaque famille, il y aura une affliction physique et morale. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et les purifiera avec des châtiments. La société souffrira les plus terribles châtiments et elle est à la veille d'événements étonnants. Ne vous attendez pas autre que d'être gouverné avec une main de fer et de boire le calice de la colère de Dieu. Les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits des ténèbres propageront un laxisme universel sur la terre dans tout ce qui concerne le service de Dieu, et ils obtiendront une puissance extraordinaire sur la nature, il y aura des églises destinées au service de ces esprits. La vraie foi aura été éteinte et une fausse lumière illuminera le monde. À Lourdes, 1858, la très sainte Vierge Marie a demandé la prière pour les pécheurs et la pénitence. À Fatima, 1917, au cours de la Première Guerre mondiale, la très sainte Vierge Marie est apparue à trois bergers, donnant des preuves évidentes, par un miracle spectaculaire, de la vérité des apparitions et messages apocalyptiques qu'elle avait donnés. Ce miracle a été vu par une grande multitude de pèlerins et d'autres spectateurs qui se sont rassemblés à Fatima le 13 octobre. Parmi les autres messages donnés à Fatima, la très sainte Vierge Marie a fait un appel angoissé à la prière et à la pénitence, face à la situation chaotique du monde, immergée dans l'immoralité, et au milieu du cataclysme de la Première Guerre mondiale. Elle a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Et la réparation à son cœur immaculé les premiers samedis du mois. Elle a averti que si ses désirs maternels n'étaient pas atteints, la Russie répandrait ses erreurs, et que par conséquent la Russie serait le fléau du monde, dont Dieu lui-même se servirait pour le châtier. D'ailleurs, elle a annoncé qu'après la Première Guerre mondiale, il y aurait une autre beaucoup plus terrible. La très sainte Vierge Marie a également annoncé que, finalement, la Russie serait convertie. La très sainte Vierge Marie a donné un message transcendant, connu comme le secret de Fatima, dans lequel elle a prédit les futurs événements terribles dans l'Église catholique, ce qui serait férocement profané par ses propres prélats, au point que la franc-maçonnerie et le communisme escaladeraient le sommet et occuperaient d'autres postes hauts au Vatican. Ainsi annonçant, longtemps à l'avance, qu'après le pontificat de Saint Paul VI, le dernier pape avec Saint-Siège à Rome, il y aurait un grand schisme apocalyptique avec Rome dirigée par des antipapes, chefs visibles de la franc-maçonnerie judéo-vaticane et précurseurs de l'Antéchrist. Malheureusement, le vrai message secret de Fatima n'a jamais été révélé au monde. À Garabandal, 1961, peu avant le conciliabule Vatican II, la très sainte Vierge Marie a averti que de nombreux cardinaux, évêques et prêtres étaient sur le chemin de l'enfer et qu'ils emmenaient beaucoup d'âmes avec eux. Après la chute de nos premiers parents Adam et Ève, Dieu, en leur présence, a maudit le serpent infernal, et a annoncé que la femme, la nouvelle Ève, à savoir la très sainte Vierge Marie, écraserait sa tête orgueilleuse, et il a dit au diable, « Je mettrai de plus grandes inimitiés entre toi et la femme, entre sa lignée et ta lignée. Elle écrasera ta tête, et tu tendras des pièges pour son talon. » C'est-à-dire que la tête du serpent infernal serait écrasée par la femme et sa lignée, qui est le Christ et son corps mystique. Et que le dragon infernal assaillirait le talon de la femme, qui est l'Église militante sur la terre, par la fraude, la tentation et la séduction. Les ennemis de l'Église. La lignée de Satan a attaqué l'Église, la lignée de la très sainte Vierge Marie, à chaque époque, en utilisant des erreurs et de la force armée. La même chose se produit dans les temps modernes. La lignée de Satan a une doctrine opposée à l'Évangile. C'est la doctrine appelée le rationalisme ou le naturalisme avec toutes ses erreurs associées dissimulées sous le nom plus moderne du libéralisme. Cette lignée de Satan a une hiérarchie opposée au sacerdoce catholique, qu'elle combat au moyen du naturalisme, à savoir les sociétés secrètes sous le nom général de la franc-maçonnerie, principal ennemi de l'Église. S'abritant sous le déguisement hypocrite de la philanthropie, cette société ténébreuse est le point de rencontre de toute impiété, de tout mal et de toute infamie de ces sectes. Selon le pape Saint Pie IX le Grand, la franc-maçonnerie est la synagogue de Satan. Cette société secrète, organisée sous la direction de chefs invisibles, a pour objectif la destruction de l'Église catholique, de la famille et de la société chrétienne, afin de créer une nouvelle société sur des principes naturalistes. Pour atteindre son objectif, elle emploie l'hypocrisie, le mensonge, la corruption et la violence. La franc-maçonnerie, criminelle dans ses objectifs et dans ses méthodes, a été condamnée par tous les souverains pontifes de Clément XII en 1738 jusqu'à nos jours. Les papes ont prononcé des peines d'excommunication contre les membres des sociétés secrètes et contre tous ceux qui les favorisent. Le vrai but de la franc-maçonnerie ou de la maçonnerie est de détruire la religion de Jésus-Christ, l'Église catholique, afin d'établir partout la libre pensée, ainsi que la morale indépendante, le naturalisme pur dans la famille et dans la société, ce que la franc-maçonnerie appelle liberté, égalité, fraternité, et un nouvel ordre mondial. La principale arme utilisée par la franc-maçonnerie pour nuire à l'Église a été la corruption morale, de sorte que les mauvais livres se sont multipliés, de même que les films obscènes, la télévision et d'autres médias, pour saturer les gens de libertinage et de vice. Par la fausseté, les méchants médias pervertissent les esprits et corrompent les cœurs. Sous le couvert de la science, ils attaquent sans cesse les enseignements de l'Église, soit en les niant, soit en les traitant de ridicules. Il s'agit donc de détruire l'ensemble de l'édifice de la foi catholique petit à petit, dans l'espoir de parvenir à la mort du christianisme. De sorte que la franc-maçonnerie a perpétré la ruine religieuse, la perte de la foi et de la vie surnaturelle dans des millions d'âmes, la ruine morale, conséquence de l'irréligion croissante, par l'action corruptrice des loges, par leur sale presse, par les lois maçonniques, et par les écoles neutres. La tactique de la secte est de s'immiscer dans toutes les sociétés, de pervertir leur esprit, et de les transformer en instruments de leur projet. Comme son objectif principal est de détruire l'Église catholique, elle s'est spécialisée dans l'infiltration astucieuse de la hiérarchie de l'Église pour ainsi la détruire. Le master plan pour détruire la Sainte Église. La première étape de la franc-maçonnerie a été d'introduire ses propres membres dans le sein de la Sainte Église afin de la percer de l'intérieur. Ils ont vraiment réussi à faire ordonner des milliers de francs-maçons, communistes et juifs comme prêtres catholiques romains, puis à prendre en charge les paroisses, les secrétariats épiscopaux, des diocèses entiers et à atteindre l'épiscopat. Certains ont même réussi à être nommés cardinaux. Une fois l'Église catholique sapée par cette horde d'ennemis masqués à l'intérieur, on a jeté les bases d'un plan des plus diaboliques, incroyablement malin et audacieux, que les francs-maçons appelaient le master plan. C'était un plan à long terme, qui a coûté plusieurs années de travail intense et qui a connu un succès incroyable. Il a réussi à ruiner l'Église catholique romaine, alors encore la véritable Église, l'Église de Dieu. Les ennemis infiltrés ont semé une fausse piété qui a rapproché les catholiques et les protestants dans un faux sentiment de charité, afin d'infecter les bonnes pommes avec celles déjà pleines de pourriture. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? La perte de la notion de péché, un monde matérialisé, sans foi, sans espoir, sans amour pour Dieu, un monde qui tourne le dos à son Dieu et Créateur, et qui refuse de le servir. Ce plan rigoureux de destruction de l'Église du Christ était un chef-d'œuvre pour fracasser l'Église catholique depuis ses fondations jusqu'au sommet. Beaucoup ont averti de ces conspirations, mais les bons chrétiens n'ont pas réussi à ouvrir les yeux à temps. Il est certainement vrai qu'au cours des siècles passés, des ennemis ont infiltré l'Église et occasionné des dégâts. Cependant, grâce à la vigilance des saints évêques, ces ennemis ont été vaincus. Mais au XXe siècle, comme la très sainte Vierge Marie avait averti à la Salette, les chefs, les guides du peuple de Dieu, ont négligé la prière et la pénitence, et le diable a obscurci leurs esprits, ils sont devenus des étoiles errantes que le diable traînera avec la queue pour les faire périr. Avec la coopération active ou passive d'une hiérarchie négligente et sous les yeux d'un peuple chrétien corrompu et indifférent, les francs-maçons qui s'étaient infiltrés dans l'Église pouvaient agir impunis et à l'aise. Le Concile Vatican II a été convoqué par le pape Saint Jean XXIII face aux terribles événements annoncés dans le secret de Fatima et aussi parce que le directeur du FBI nord-américain, J. Edgar Hoover, a averti le pape qu'il y avait des dizaines de milliers d'agents communistes infiltrés dans le clergé catholique partout dans le monde. Le pape, effrayé par le message de Fatima, s'est senti inspiré par le Saint-Esprit pour convoquer le Concile et il espérait ainsi exposer les maux et y remédier. Bien que le Concile ait été convoqué par le pape Saint Jean XXIII et inspiré par le Saint-Esprit, peu après, Ces objectifs positifs se sont peu à peu effondrés sous l'influence oppressive d'une grande partie des pères conciliaires francs-maçons et progressistes, et aussi à cause de la lâcheté et du respect humain de nombreux traditionalistes, le but saint s'est prostitué en tirant des conclusions ouvertement erronées et ambiguës. Montrant ainsi que le Saint-Esprit avait été expulsé de la salle du Concile pour faire place à Satan. Voilà pourquoi le Concile Vatican II, en ce qui concerne ses progrès et ses conclusions, n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais celle du diable. Bien que, dans les actes conciliaires, il y ait un certain enseignement saint, il y avait là-dedans un mélange d'hérésie et d'ambiguïté effrayant. En camouflant le mal de cette manière, la franc-maçonnerie facilitait l'acceptation des textes conciliaires et ainsi pouvait atteindre plus facilement ses objectifs pervers. Le Concile Vatican II, dans ses écrits, à cause de l'hérésie, l'ambiguïté et les objectifs pervers auxquels il était dirigé par des francs-maçons et des progressistes, est illégal, ruineux et abominable et a donc été déclaré inconciliabule, dépourvu de toute autorité dans l'Église. Il ne faut pas oublier que s'il y a une seule erreur doctrinale dans l'Église, alors, cette Église cesse d'être la vraie. Cela dit, nous ne ternissons pas du tout l'autorité illustre et infaillible ni la bonne foi des papes Saint Jean XXIII et Saint Paul VI, qui ont gouverné l'Église au moment de ce conciliabule. Parce que, quant au premier pontife, Jean XXIII, ses ennemis ont abusé de sa paternité excessive, de sa gentillesse et de son optimisme au lieu de se profiter de lui pour leur conversion. Et quant au second, Paul VI, nous savons qu'il a été victime de la franc-maçonnerie du Vatican, qui lui a fait subir de fréquents lavages de cerveau avec les drogues, et qui a fait signer, par la main irréprochable du pape, des choses qui n'auraient pas dû être signées, même si, dans la majorité des cas, ils aient falsifié sa signature. Les quelques pages des documents du Vatican II qui contiennent une doctrine traditionnelle authentique sont, sans aucun doute, l'œuvre de quelques courageux pères conciliaires. Le premier saint, grand et dogmatique concile palmarien, a déclaré le concile Vatican II nul et non avenu, et l'a supprimé de la liste des conciles saints de l'Église, car il fait partie des conciliabules. Les ennemis infiltrés se sont mis à la tête de tous les changements dans la liturgie et la tradition. Sous prétexte de supprimer les coutumes désuètes et de mettre à jour l'Église, ils ont cherché à la moderniser pour attirer les frères séparés. Ils se sont efforcés de remplacer l'Église catholique par une Église prétendument universelle avec toutes les Églises réunies, dans lesquelles tous les Juifs, les musulmans, les hindous, etc., seraient inclus. Le premier et unique commandement de cette Église universelle serait « Aimez ton prochain comme toi-même ». Un Dieu de toute bonté continuerait d'exister, mais un Dieu si bon qu'il ne punit pas. Et comme il ne peut pas punir, tout le monde l'oublierait vite. Puisqu'un Dieu qui n'impose pas le respect, qu'on ne craint pas, est oublié. Mais tel était l'objectif entier du plan. Le plan était simple, semer une fausse piété de compréhension envers les non-catholiques, s'approcher des non-catholiques, ouvrir les portes de l'Église à ceux qui ne sont pas catholiques, supprimer les choses sans importance qui pourraient les perturber, supprimer le parfum sacré de l'adoration de Dieu et du Christ, et de l'amour pour la très sainte Marie, et de tout ce qui porte le titre de catholique. Dans le plan maçonnique de destruction de l'Église, il fallait commencer par des choses les plus simples. C'est un plan qui a duré des années, en travaillant avec constance et, surtout, en atteignant la collaboration des évêques, des prêtres et des bons catholiques. Toujours au nom de l'amour, de la charité. Même si ce mot charité est aussi superflu, car il est certain qu'il parle du voisin, mais il est lié à l'amour de Dieu, du Christ et à l'amour de la Vierge et des saints. Ils ont donc préféré le mot amour, car ils disent que c'est la même chose, et en plus, l'amour est plus moderne, plus intelligible pour les gens, et peut les rapprocher. Il faut noter la transcendance incalculable et définitive de ce plan, tout simplement diabolique, qui a conduit au détrônement du Christ et à la destruction de l'Église du Christ, car l'amour du prochain ne peut pas exister sans le fondement essentiel de l'amour de Dieu, comme les infiltrés déjà reconnaissent très bien. Ils ont remplacé le mot piété, par compréhension, ce qui signifiait la même chose pour les autres, les frères, mais qui ne comportait pas le sens de l'union avec Dieu, avec le Christ, avec la Vierge et ainsi de suite. Ils ont dit que parler de piété avait l'air d'affectation, de béata ou plutôt des vielles sans rien à faire, et qui vont à l'église pour passer le temps. Les anciens recueils de cantiques catholiques ont disparu. Ils ont introduit des hymnes protestants et profanes, disant que les hymnes traditionnels étaient trop sentimentaux. Leur plan consistait tout simplement à imposer l'amour et l'adoration de l'homme et à éliminer l'amour et l'adoration de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont raisonné, une fois que l'amour pour Dieu a disparu, les hommes ne peuvent plus s'aimer, ils se détesteront plutôt. Ainsi, leur objectif consistait à modifier le premier et le plus grand commandement de la loi de Dieu, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et de toute ta force. » Le plan était très attractif, car tout devait être fait au nom d'une grande cause, l'amour du prochain. Et avec ce slogan, ils ont pu facilement gagner la collaboration sincère des bons catholiques, des prêtres et des évêques, en mettant un terme à l'amour de Dieu, à l'amour qui est la source de tout amour. Au nom de l'amour, il s'agissait de semer la haine pour l'essentiel, l'amour de Dieu. Tout d'abord, le plan consistait à retirer les choses extérieures des gens, en disant qu'ils étaient sans importance, qu'ils offensaient la sensibilité de leurs frères séparés, les non-catholiques. Outre leurs attaques contre les habits, il y avait aussi un plan pour que les gens cessent d'utiliser leurs médailles, leurs scapulaires, leurs chapelets, etc. Le plan considérait que tout cela était très important, puisque ces choses qui semblaient n'avoir aucune importance étaient celles qui respiraient amour pour Dieu, pour le Christ et pour la Vierge. Pour ceux qui devaient être détrônés de la société. Quant au scapulaire et à la médaille, c'était facile, les infiltrés disaient. Il faut insister, ces choses sont des choses de béato, des choses extérieures, des choses sans importance, mais qui offensent les idées des frères protestants. Par conséquent, il vaudrait mieux les laisser de côté, ne pas les utiliser, et il serait donc plus facile pour les protestants d'approcher l'Église. Plus de 30 papes ont recommandé le scapulaire du Mont Carmel, l'ont utilisé, l'ont propagé avec les plus belles paroles que le vocabulaire humain permet. Des centaines de milliers de prêtres et d'évêques l'ont vivement recommandé pendant 7 siècles et des millions de catholiques l'ont utilisé. Et soudain, personne n'en parle. Quelqu'un va dans une église chercher un scapulaire et il n'y en a pas, et ils ne prennent pas la peine de les fabriquer. Comme par magie, il n'y a pas de scapulaire, comme s'ils étaient inutiles, comme s'ils étaient choses de béato. Les infiltrés semblent vraiment avoir eu du succès avec le scapulaire. Et pourtant, le scapulaire reste l'arme simple de notre mère, la plus affectueuse tendresse de la Vierge envers ses enfants. Débarrassez-vous des soutanes et des vêtements sacerdotaux. Que les prêtres et les religieuses ne portent plus les habits, etc. Toutes ces choses extérieures sans importance témoignaient de vie passée constamment près de Dieu, du Christ, de la Vierge. Et ils étaient les premiers qu'il fallait enlever, car ces habits témoignaient des vies consacrées à Dieu. L'habit de chaque religieuse dans la rue était un cri d'une vie abandonnée pour l'amour de Dieu, un cri silencieux, mais constant, que Dieu et son Église existent dans notre siècle, un cri des centaines de milliers de personnes prêtes à sacrifier leur vie pour l'amour du Christ. La franc-maçonnerie avait bien planifié et était fière de n'avoir utilisé rien de moins que le Concile Vatican II pour mener à bien cette tâche. Le plan était de commencer par dire que les habits sont désuets. Et ensuite, répandre l'idée que les prêtres et les religieuses, habillés comme des laïcs, pourraient entrer dans des milieux où l'habit serait une barrière qui séparait les frères protestants des catholiques. Il ne fait aucun doute qu'ils ont eu un grand succès, car on ne voit plus de religieuses ni de prêtres dans les rues, ni ailleurs. C'était la première partie du plan. La dernière partie consistait à les faire cesser d'exister véritablement, à faire oublier la figure du prêtre ou de la religieuse. Et ne les voyant pas, les jeunes seraient ignorants de leur existence et ainsi personne ne penserait à devenir prêtre ou religieuse. La figure de l'homme qui sacrifie toute sa vie pour le Christ cesserait d'exister. Il est intéressant de voir les personnes qui ont été utilisées dans ce plan, car, sans aucun doute, il s'agit d'un plan d'une audace des plus subtiles, il a utilisé de bons catholiques, prêtres, religieuses, évêques. Pour détruire le sacerdoce. Mais nous examinerons cela plus en détail plus tard. Le plan était également de retirer les religieuses de leur cloître. Insinuer que leurs frères dans la rue en avaient besoin, qu'une carmélite peut faire beaucoup de bien en soignant les malades et en dirigeant les écoles, etc. Le plan semble vraiment étonnant, il captive les plus intelligents. Qui pourrait rester indifférent à un appel urgent à l'amour du prochain, pour assister à ceux qui souffrent, qui pleurent, qui sont dans le besoin, si le Christ lui-même souffre et pleure quand notre frère souffre et pleure? En cela, ils ont eu beaucoup de succès. De nombreux cloîtres ont cessé d'être des cloîtres. Ces bastions d'amour pour Dieu ont cessé d'exister. La franc-maçonnerie a voulu les détruire complètement, car elle sait très bien qu'ils étaient des fourneaux ardents d'amour pour Dieu et pour sa très sainte mère. Parce qu'elle sait très bien que ces âmes enterrées vivantes pour le Christ étaient le feu qui alimentait la chrétienté. Dans les rues, ces forteresses imprenables ont disparu. En s'habillant comme des laïcs, elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient aimer mieux leurs frères en n'étant pas des religieuses. Le plan conduisait à mettre l'homme sur le piédestal de Dieu et à lui faire imaginer que l'homme est Dieu. Si Dieu n'existe pas, il n'est pas nécessaire de l'adorer, il n'est pas nécessaire de sacrifier toute sa vie pour Dieu, mais pour l'homme, qui est le nouveau Dieu. Les couvents cloîtrés étaient des châteaux invincibles d'amour pour Dieu, et leur destruction était essentielle pour implanter le premier commandement comme amour pour le prochain, oubliant l'amour pour Dieu. Chaque prêtre ou religieuse avec sa soutane ou son habit, en se promenant dans la ville, criait l'amour de Dieu et du prochain, mieux qu'avec 1000 discours ou 1000 œuvres de charité. Ils étaient un témoignage vivant de l'amour du Christ qui continuait d'exister réellement dans leur vie, et ils montraient au monde qu'ils étaient fiers d'être ce qu'ils étaient. De même, ils ont supprimé l'obligation établie par saint Paul pour les femmes de se couvrir la tête à l'intérieur de l'Église, jugeant qu'il était sans importance de rejeter les instructions et les enseignements des apôtres. Les changements dans la messe ont commencé au milieu des années 60. Ils ont été rédigés par la franc-maçonnerie du Vatican en utilisant la Sacrée Congrégation des Rites. Ces changements ont été envoyés à tous les archidiocèses du monde dans une publication aussi complète que coûteuse et de là à toutes les paroisses du monde. Chaque semaine, ou presque chaque semaine, ces changements de Rome sont arrivés. Le premier de ces changements, quelle coïncidence, c'était de retirer la prière à Saint-Michel que le prêtre récitait au pied de l'autel après la messe. Après quelques années, la messe était devenue méconnaissable en tant que messe et ambiguë en tant que sacrifice, conduisant à l'abolition complète de la vraie messe en novembre 1969, lorsque le sacrifice sacré, dans lequel le calvaire se perpétue et le sang divin est versé pour l'humanité, a été supplanté par le Novus Ordo Missae Hérétique, qui est un banquet ou un souper et donc une pseudo-messe. La Sainte Messe devait être au centre du plan. Ils n'ont pas tenté de l'enlever d'un seul coup, car cela aurait été impossible, mais ils avaient une stratégie d'attaque très particulière, synthétisée dans les points suivants. L'attaque entière consistait à retirer sa signification sacrée en tant que rénovation sans effusion de sang du sacrifice de la croix, et à la réduire à un banquet fraternel. Le plan disait, les chrétiens disent que la messe est un banquet, et nous insistons donc sur ce point, que ce n'est que cela, un banquet de frères. À cette fin, ils ont proposé de nombreux détails. Chacun d'eux, disaient-ils, semblerait ne rien enlever à la messe, mais tous ensemble, ils la transformeraient en un banquet parmi les frères, et lorsque le sacrifice du calvaire disparaîtrait de la sainte messe, la fraternité disparaîtrait aussi, de la même manière qu'un mât tombe lorsque son support est enlevé. Tout d'abord, des choses simples, et qui semblent raisonnables, dire la messe dans la langue du peuple, pour mieux se comprendre dans le banquet. Selon le plan, ils parviendraient à supprimer une partie du mystère sacré de la messe. La messe face aux gens, et le prêtre regardant les gens. Cela serait facile à accepter, disait le plan, car le prêtre ne peut pas tourner le dos à ses paroissiens. Par une ruse si simple, le plan cherchait à réaliser des choses importantes. Premièrement, que Dieu ne soit pas le centre de la messe, mais les hommes. Que le prêtre ne regarde pas Dieu mais les hommes. Autrefois, le prêtre ne tournait pas le dos aux chrétiens, mais faisait face à Dieu, comme le font tous les chrétiens, quelqu'un assis sur le deuxième banc ne tourne pas le dos à quelqu'un sur le troisième banc, mais fait face à Dieu. Une condition essentielle pour dire la Sainte Messe était toujours que l'autel ait un crucifix. Mais avec le prêtre maintenant face au public, le crucifix fait face au prêtre, avec le dos tourné aux chrétiens, de sorte que le crucifix sur l'autel est superflu. Sur l'autel, il y avait toujours des reliques des saints, mais maintenant seulement une simple table de bois, ou de n'importe quoi, car elle a été transformée en banquet. Le stratagème consistait à retirer de la Sainte Messe tout ce qui semblait sacré. Insister sur le naturel, le plan maçonnique disait. Supprimer les génuflexions et que chaque prêtre utilise les mots qui lui viennent et fasse les mouvements qu'il préfère, pourvu qu'il fasse des génuflexions à la consécration. Tout le reste est superflu, il doit faire les choses à sa manière. Et qu'il continue à utiliser les pouces et les index pour toute autre chose après avoir consacré avec eux. L'idée était de supprimer progressivement tout ce qui était mystérieux et sacré. Qu'il y ait des lectures et que cela ressemble davantage à un service protestant, disait le plan. L'idée était de minimiser autant que possible le sacrifice du calvaire, et de ne pas en faire l'élément central. Qu'on parle beaucoup, qu'on chante beaucoup, que les frères se saluent, demandent pardon. Insister sur tout ce qui peut leur faire oublier Dieu, l'adoration de Dieu. Qu'ils adorent l'homme. Il est à noter que le plan était totalement diabolique, basé sur de bonnes choses, mais avec l'objectif de supprimer l'adoration de Dieu, en oubliant le sacrifice du Christ. Et avec les fondations détruites, le mât de la fraternité tomberait. Le tabernacle est maintenant un problème, car avec le prêtre face au public, il a le dos au tabernacle. Il serait donc préférable de retirer le tabernacle du centre de l'église et de le placer de côté, de sorte que le prêtre ne le tournera pas le dos pendant la messe. Avec cela, disait le plan, nous enlèverons les tabernacles du centre de l'église. Ce sera un grand pas. Peu à peu, insister sur le banquet, laisser le Christ dehors et rassembler les frères en confrérie. En bref, ce sera un rassemblement de frères, mais sans adoration de Dieu, sans action de grâce à Dieu. Un banquet de frères sera accompli, mais le sacrifice du Christ sera oublié. Insister sur l'amour pour les frères protestants, et que la messe ressemble autant que possible au service protestant, pour attirer les frères séparés vers l'Église catholique, disait ironiquement le plan maçonnique. La communion debout et dans la main. Le but de ce plan était d'éliminer chez l'homme l'amour de Dieu, car le plan raisonne que si finalement personne n'aime Dieu, personne n'aimera son prochain. L'amour du prochain ne peut exister sans raison, l'amour du prochain est impossible sans l'amour de Dieu. Le plan dit que l'Eucharistie est au centre du catholicisme, car elle n'est rien de moins que le Christ Dieu devenu pain pour l'amour des hommes. On ne peut pas l'éliminer d'un coup, car aucun catholique n'accepterait cela. Mais il propose une stratégie d'attaque sataniquement raffinée. En premier lieu, éliminer autant que possible chaque aspect sacré de l'Eucharistie, que les gens ne s'agenouillent pas pour recevoir la communion, par exemple, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un repas et qu'il faut le faire de façon normale. Recevoir la communion dans la main aiderait aussi à éliminer cette qualité mystérieuse, divine, sacrée. C'est un repas, sans mystère, sans rien qui parle de sainteté, mais naturel, à manger, à mastiquer. À faire comme à la dernière scène du Christ. Cette première partie est si bien conçue pour convaincre qui que ce soit, insister pour faire comme le Christ. Le prendre naturellement. Ça convainc le mieux. Mais l'objectif est d'essayer d'éliminer cette qualité sacrée et mystérieuse, d'éliminer l'importance de l'Eucharistie. Le point le plus important de cette partie du plan, et c'est le deuxième point, c'est d'obtenir que le Christ Dieu ne soit plus le centre de l'Eucharistie, mais que l'Eucharistie soit un souper de confrérie, un banquet pour la communion des chrétiens, où ils se réunissent pour s'aimer les uns les autres. Cette seconde partie est essentielle pour changer le sens de l'Eucharistie, le plan insiste à plusieurs reprises et indique qu'il est facile de réaliser, insister sur l'élément de fraternité, de communion, de rassemblement des frères. Et il poursuit avec ironie en disant, que les frères se réunissent et s'aiment. Dès que le sacré leur fait défaut, ces frères finiront par être en désaccord, et finalement ils se querelleront fraternellement. Pour atteindre cet objectif essentiel, le plan proposait de nombreuses idées pour aider à éliminer le sens sacré de l'Eucharistie, comme la suppression de l'exposition du Saint-Sacrement, parce que là, il n'y a aucun banquet de frères. Il propose des messes et des communions dans les maisons privées, afin de supprimer ainsi la qualité sacrée de l'Église, de l'Eucharistie. Le plan disait qu'elle ne serait pas supprimée d'un seul coup, mais que cela aiderait à éliminer le sens sacré de l'Eucharistie et à en faire une simple réunion fraternelle. Il propose donc de ne pas utiliser le plateau pour distribuer la Sainte Communion car, explique-t-il, il faut dire que si des particules de l'hostie tombent, cela n'a pas d'importance. Dieu, en fin de compte, est partout. Le projet était d'une méchanceté diabolique, proposant des choses qui semblaient raisonnables, mais qui n'étaient rien d'autre que des mensonges monstrueux déguisés en vérité. En finir avec la Vierge et les saints. C'était l'une des premières étapes du master plan. Insister pour que seul Dieu soit adoré, pas la Vierge ou les saints. Le plan est très subtil à cet égard. Il dit que les catholiques bien renseignés savent très bien que l'Église catholique adore Dieu seul, et qu'elle vénère les saints comme des amis de Dieu, sans les adorer. Il serait donc assez facile de faire croire à des gens simples que l'Église catholique adore les saints car ils en ont sur les autels, et c'est une très mauvaise chose puisque l'adoration est due à Dieu seul. En ce qui concerne les saints, le plan a réussi facilement dans de nombreux endroits. Rapidement, dans la majorité des églises, il n'y avait plus de saints sur les autels, à chaque endroit il donnait une raison différente, mais le fait est que les saints ont disparu de nombreuses églises. Quant à la Très Sainte Vierge, dans le conciliabule œcuménique, le plan avait mis l'argument pour la détrôner. Pour se rapprocher des frères protestants, il ne faut pas insister sur la prééminence de la Vierge, ni sur le fait qu'elle est la mère de Dieu, il suffit d'adorer le Christ, le reste est superflu. Il semblait que pour la première fois dans l'histoire de l'Église, la Très Sainte Vierge allait être détrônée de sa place privilégiée dans la liturgie et dans la chrétienté. Mais le pape Paul VI est venu, en personne, et il l'a nommée mère de l'Église. Le plan continuait à travailler sur cette question, considérant qu'il était essentiel de détrôner la Vierge pour détruire l'Église. Il a suggéré que le chapelet ne devrait pas être prié, car il éloigne les frères protestants. Qu'il ne devrait pas y avoir de neuvaine à la Vierge, parce que tout cela c'est pour les béatos. La franc-maçonnerie a obtenu que le peuple ne l'honore que du bout des lèvres, mais que leur cœur soit loin de la Très Sainte Vierge, car le peuple continuait à appeler Marie pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes, Mère de Dieu et Notre Mère, mais dans la pratique, ils ont montré peu d'intérêt pour la vénérer, car ils ont cessé d'imiter sa modestie, son humilité, sa pureté et ses autres vertus. Le plan était diabolique. Il est dit qu'il y a plusieurs milliers de prêtres catholiques qui ne sont pas vraiment catholiques mais des communistes, faussement ordonnés prêtres. Mais ce ne sont pas les véritables exécutants du plan, mais ses propagateurs. Ceux qui ont exécuté le plan étaient les catholiques sincères qui se sont laissés berner. Les vrais évêques, prêtres et religieuses, qui se sont laissés berner par la devise « l'amour du prochain ». Les fidèles catholiques ont été utilisés par la franc-maçonnerie pour réaliser leurs objectifs. Ils les ont dupés avec des demi-vérités qui étaient les pires mensonges, pour pouvoir introduire l'amour du prochain dans le monde sans l'amour de Dieu. Ils les ont utilisés pour supplanter Dieu avec l'homme. Afin que l'homme soit adoré et que Dieu soit oublié. Afin que la femme soit aimée et que la Vierge soit oubliée. Tout cela dans l'espoir que sans l'amour de Dieu, l'amour du prochain serait détruit et que l'Église du Christ disparaîtrait. Ils ont trompé avec le mensonge qu'un homme peut être franc-maçon et catholique en même temps. Qu'il peut être à la fois spiritualiste et catholique. Le Christ nous a déjà averti que les enfants des ténèbres sont plus astucieux que les enfants de la lumière. C'est ainsi que les enfants de la lumière, ayant abandonné la prière et l'accomplissement fidèle de la loi de Dieu, se sont laissés séduire par les enfants des ténèbres. L'anti-église ou synagogue de Satan, appelée plus tard la franc-maçonnerie, a été fondée à l'époque du Christ. Elle cherchait à discréditer sa doctrine au point de mettre le Christ à mort, afin qu'il ne soit pas considéré comme le véritable Messie. Et après la mort du Christ, elle a décrété la persécution perpétuelle contre la véritable Église. Les sectaires juifs, après avoir consommé leur apostasie par leur abominable déicide, sont devenus les ennemis les plus féroces de la Sainte Mère Église et les promoteurs des principales hérésies et des grands désordres du monde. Les juifs non convertis sont les fondements et les piliers de la franc-maçonnerie qui est la mère de toute révolution contre le Christ et son Église et de toutes les persécutions dont elle a été l'objet au cours de l'histoire. Ils ont toujours combattu la Sainte Mère Église en utilisant tous les moyens pervers à leur disposition, en particulier des mensonges, des calomnies et des meurtres, comme le montrent clairement leurs activités contre les apôtres et les premiers chrétiens. Au fil des siècles, les sionistes ont astucieusement infiltré le clergé, les gouvernements et les peuples catholiques dans le but de détruire de l'intérieur l'Église que le Christ a fondée, comme le montrent clairement certains textes du Nouveau Testament, mais aussi les événements historiques eux-mêmes, également les documents ecclésiastiques et civils, et plus particulièrement les archives de la Sainte Inquisition, institut très digne d'éloge pour sa lutte centenaire contre une telle infiltration. Les massacres perpétrés au cours des révolutions promues par le sionisme, tels que les communistes, ont produit de véritables torrents de sang innocent, avec la plus grande cruauté et la plus grande impiété. Et les crimes horribles commis par le maudit capitalisme oppressif, autre fruit du sionisme, sont également remarquables. Les sionistes, au cours de l'histoire, ont réussi à supplanter la foi catholique avec le matérialisme dans de nombreuses nations, les réduisant en esclavage par oppression tout en s'emparant de leurs richesses. Les sionistes d'aujourd'hui sont ceux qui dirigent les gouvernements du monde entier dans le but de former un gouvernement unique et universel. La chose la plus bizarre à propos de la franc-maçonnerie est que tant de membres de la société sont prêts à rejoindre ce corps maléfique et à devenir des serviteurs du diable, trahissant ainsi Dieu, leur pays, leur famille, leur propre âme et tout ce qui est authentique et noble, en échange de quoi ? La ruine des autres et leur propre ruine. Il y a certainement eu beaucoup de traditionalistes qui ont dénoncé les hérésies et profanations régnantes et qui ont écrit des traités érudits révélant les innovations hérétiques dans le Novus Ordo de la messe. Cependant, beaucoup de ces traditionalistes ont blâmé le pape Saint Paul VI et sont même allés jusqu'à le déclarer hérétique. Certains d'entre eux se sont séparés du pape, ils ne se sont pas laissés guider par les apparitions de la très sainte Vierge Marie. En voyant l'Église se détruire ainsi, la très sainte Vierge Marie ne pouvait pas rester indifférente, mais se préparait à écraser la tête de l'ancien serpent de l'enfer et à accomplir la promesse de Dieu dans la Genèse. Les apparitions au Palmar de Troya. Le 30 mars 1968, la très sainte Vierge Marie est apparue à quatre jeunes filles dans le lieu sacré du Palmar de Troya, Utrera-Séville, Espagne, sur un lentisque, qui se trouve aujourd'hui à l'intérieur de la cathédrale basilique palmarienne et où l'on vénère la sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ et l'image de la très sainte Vierge Marie. Après les quatre premières filles, d'autres voyants ont émergé. Le 30 septembre 1969, Clemente Dominguez y Gomez a eu sa première vision. Il est devenu le principal messager puisque notre Seigneur Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie lui ont confié les messages les plus transcendantaux et compromettants. Les messages apocalyptiques du Palmar de Troya, donnés à Clemente Dominguez sont un appel continuel à la prière et à la pénitence, une invitation angoissée du ciel aux gens à venir au Palmar, une dénonciation des hérésies et du progressisme et d'autres profanations qui ravageaient impitoyablement l'Église romaine, l'annonce d'un grand schisme après la mort du pape Saint Paul VI. L'annonce de la papauté du Palmar de Troya. L'annonce de la proximité de l'avènement de l'Antéchrist. L'annonce de la glorieuse parousie de notre Seigneur Jésus-Christ comme juge suprême pour juger les hommes universellement et établir la règne messianique sur la terre. Et d'autres événements apocalyptiques. La clameur de la très sainte Vierge Marie, à travers son messager principal, était accompagnée des signes extraordinaires qui démontraient la véracité des apparitions, de merveilleuses extases, des conversions, des guérisons, des stigmatisations, des communions mystiques, et ainsi de suite. La majorité des cardinaux, des évêques et des prêtres de l'Église romaine avaient apostasié. Le pape Saint Paul VI était la victime innocente de la franc-maçonnerie et du communisme qui alors gouvernait l'Église. Les apparitions du Palmar de Troya ont préparé ce lieu sacré pour être le futur Saint-Siège de l'Église, tel comme il est actuellement. Pendant sa vie de laïque, comme voyant principal des apparitions du Palmar de Troya, Clemente Dominguez, toujours assez jeune, devait lutter courageusement pour répandre les messages extrêmement compromettants qui lui étaient révélés par notre Seigneur Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie au cours de beaucoup d'années. Sa loyauté envers Dieu a été vraiment prouvée. Clemente Dominguez y Gomez, depuis le début, est devenu le grand apôtre de la sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint Chapelet pénitentiel, dévotion auquel beaucoup de personnes s'opposaient farouchement et qu'il avait à défendre courageusement. En 1969, Clemente, dans un message, a reçu le mandat du ciel d'établir la réparation à la sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ tous les premiers jeudis du mois. Le 2 février 1970, par mandat du Seigneur à Clemente, la sainte face a été intronisée dans le lieu sacré du Lentisque au Palmar de Troya, la même image qu'on y vénère aujourd'hui. En 1970, le Seigneur a donné des instructions à Clemente pour la confection du scapulaire de la sainte face. Le 12 septembre 1972, aussi par mandat du Seigneur au même voyant, l'image de la très sainte Vierge Marie qui est actuellement vénérée sous le vocable de Notre Mère du Palmar couronnée, a été intronisée dans le lieu sacré du Lentisque. Clemente Dominguez, étant toujours très jeune, a reçu la grâce des stigmates de la Passion du Christ, aux mains, au front et au côté droit de son corps. Des mystères qui se sont reproduits après à plusieurs reprises. Il a reçu certaines de ses plaies en présence de beaucoup de ceux qui fréquentaient le lieu sacré du Palmar. Clemente Dominguez et son compagnon inséparable, Manuel Alonso Corral, étaient les deux colonnes principales du lieu sacré du Palmar de Troya, et puisque l'œuvre du Palmar de Troya était persécutée par la hiérarchie progressiste et dévastatrice de l'Église romaine, gouvernée alors par le pape Paul VI, les deux devaient défendre les apparitions du Palmar avec beaucoup d'énergie et de ténacité. Le jeune voyant Clemente Dominguez y Gomez, le futur pape Grégoire XVII, comme laïc, a réalisé une mission apostolique extraordinaire, parce qu'il s'est entretenu avec les prélats les plus importants de l'Église, dont la majorité était déjà corrompue, en Espagne et dans beaucoup d'autres nations d'Europe et d'Amérique. À cause de leur attitude obstinée, il a fait face à beaucoup de ces prélats et a défendu les droits de Dieu et de l'Église comme le Seigneur et la Vierge Marie lui avaient ordonné. À plusieurs reprises, il a rendu visite au cardinal Saint-Alfred Ottaviani à sa résidence à Rome afin qu'il présente les messages concernant l'Église et son pontificat au pape Saint Paul VI. Dans certains de ces messages, il y avait les noms et d'autres détails sur des cardinaux et des évêques traîtres. Une fois, dans un geste d'extrême courage, Clemente lui-même a passé les messages au pape Saint Paul VI lors d'une audience papale. Ce pape glorieux, le pape Saint Paul VI, qui était bien conscient des apparitions et messages célestes, n'a jamais condamné l'œuvre du Palmar de Troya. Clemente était victime de grandes persécutions provoquées par les ennemis du Palmar. Clemente Dominguez y Gomez était le grand défenseur du pape Saint Paul VI, et il a révélé au monde, avec valeur et décision, que ce pape était victime de la maçonnerie vaticane, de ses francs-maçons qui lui administraient les drogues pour annuler sa volonté. La très sainte Vierge Marie met en évidence la corruption dans l'Église. Dans les messages du Palmar de Troya, notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère ont mis en évidence les maux qui affligeaient l'Église, ils nous ont rappelé la validité de la doctrine traditionnelle, et ont exposé l'action des ennemis infiltrés. Voyons quelques extraits de certains messages donnés au voyant Clemente Dominguez y Gomez, aujourd'hui Saint Grégoire XVII. Message donné à Clemente à La Salette, France, l'humanité est perdue. Les hommes sont tombés dans l'orgueil, et ils ont laissé de côté leur saine tradition. Ils tournent le dos à leur Mère Céleste, à moi, la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes par le très précieux sang versé par Jésus sur la croix. L'humanité avance à l'aveugle, gouvernée par de mauvais pasteurs, des pasteurs qui ne s'occupent pas des moutons, des pasteurs qui vivent parmi les plaisirs du monde, des pasteurs égarés, cardinaux, évêques, prêtres, frères, religieuses, qui ne prennent aucune responsabilité du troupeau. Le destin du monde serait différent si les messages que j'ai donnés dans ce lieu sacré avaient été écoutés, diffusés et remplis. Mais la majorité ne les croyait pas. D'autres les attaquaient. Et d'autres encore ne s'y intéressaient pas. Ici, à la Salette, j'ai annoncé plusieurs des maux qui allaient frapper l'Église et le monde. Et ils sont en train de s'accomplir à la lettre. D'autres doivent arriver à la fin. Ce dont j'ai parlé dans ce lieu sacré s'accomplira jusqu'à la dernière lettre. Les égouts que j'avais annoncés au siècle dernier à la Salette peuvent maintenant être vus. Les ministres du Seigneur, beaucoup d'entre eux, abandonnent l'autel pour se marier et vivre une vie de plaisir avec une femme. Pensez-vous que ce n'est pas de l'apostasie? Malheur à l'homme qui met la main à la charrue et revient en arrière. Celui qui est consacré prêtre reste consacré selon l'ordre de Melchisédek et sera toujours prêtre. Et après la mort, il sera toujours prêtre dans le lieu où il a été destiné. J'ai déjà pleuré dans cet endroit sur les maux qui allaient venir. J'ai vu comment la Sainte Eucharistie allait être piétinée. Comment le sang de l'agneau divin allait être horriblement foulé par ses propres ministres. Comment le temps viendrait où la communion ne serait pas respectée comme il se doit. Le temps est maintenant venu où l'Eucharistie est méprisée, piétinée. Les ministres du Seigneur l'administrent maintenant de quelque manière que ce soit, sans respect ni vénération. Vous devriez savoir, mes enfants, que l'Eucharistie doit être reçue dignement, avec respect, recueillement, oblation et consécration à Dieu. Et la posture appropriée est à genoux, pliant les genoux devant la majesté de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour le salut des hommes, qui donne sa chair à manger et son sang à boire afin de communiquer ses grâces et sa miséricorde. Le royaume de Dieu ne sera pas pour ces prêtres qui administrent la communion à des personnes debout, ou la mettent dans la main plutôt que sur la langue, car ils piétinent ainsi le Jésus sacramentel. Ils devraient exhorter les fidèles à recevoir la communion à genoux et déposer sur la langue, non dans la main, ces mains pures des fidèles. Ministre du Seigneur, je vous le demande, pourquoi vos mains ont-elles été purifiées? Vos mains sont-elles les mêmes que celles des autres fidèles? Non. Vos mains sont sacrées, seule la main du prêtre peut toucher la sacrée Eucharistie. L'humanité. Jésus commence maintenant à se retirer des tabernacles. Il y aura des villes où très peu d'églises auront la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement, car beaucoup de ces soi-disant ministres du Seigneur sont membres de la franc-maçonnerie et intérieurement ils ne consacrent pas. 1971. Message donné à Clemente Dominguez au Palmar de Troya, mon fils, ce message doit être transmis au Saint-Père Paul VI, les terribles événements annoncés à temps à l'Église sont déjà à portée de main. Le Vatican est déjà entre les mains de francs-maçons et de marxistes. Les francs-maçons et les pharisiens ont infiltré la curie romaine. Ce sont eux qui bloquent le chemin du vicaire du Christ. Il est essentiel de bien savoir ce qui va se passer, car le sang coulera sur la place de Saint-Pierre. Le communisme et la franc-maçonnerie préparent déjà le grand coup décisif. Le marxisme s'emparera de l'Église et s'installera sur le trône. Il est urgent que le canon traditionnel revienne sur l'autel de Dieu, car l'actuel est irrévérencieux, fait preuve de l'arrogance de l'homme et rend le culte de Dieu ridicule. Le latin doit être rétabli dans l'Église, car les langues vernaculaires représentent la tour de Babel. La communion administrée debout doit être supprimée. Puisque devant Dieu, tout homme doit plier le genou. En aucun cas, la Sainte Eucharistie ne peut être déposée dans la main. Il est obligatoire de la déposer sur la langue. Paul VI est le souverain pontife de l'Église. Les évêques sont ses collaborateurs. Mais c'est le pape qui détient le pouvoir suprême en représentation de Jésus-Christ. Que les prêtres conservent le célibat sacré, et ne torturent pas davantage le pape. Prochainement un antipape règnera, la confusion sera terrible. Le vrai pape ne manquera pas, mais il faudra beaucoup de prières pour voir la lumière 1971. Mon pauvre vicaire. Quelle croix extraordinaire vous avez dû porter. Mais cette croix sera votre gloire dans la patrie céleste. Le pauvre pape. Regardez son visage ridé et pâle. Regardez sa figure, ce sont les symptômes de la passion. Ne faites pas attention aux diffamateurs du Saint-Père. Ce n'est pas lui qui fait le mal dans l'Église. Ce sont les évêques pharisiens qui l'entourent, parce que, malheureusement, il y a des évêques maçonniques et des évêques marxistes dans l'Église. Ils ne laissent pas le pape agir et, pire encore, certains, devant lui, l'applaudissent, mais chacun fait ce qu'il veut et pas ce que le pape dit. Satan est déjà au Vatican et gouverne l'Église, car il y a des évêques dont la seule ambition est de détruire l'Église, mais ils ne réussiront pas. Je serai avec mon Église jusqu'à la consommation des siècles. 1971. Mes petits-enfants, priez beaucoup pour votre Sainte Mère l'Église, pour vos pasteurs, vos prêtres. Priez constamment pour eux. L'Église devient de plus en plus obscure, il semblera qu'elle ait succombé. Mais mon assistance ne vous manquera jamais. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Pourtant, ma vraie Église sera très cachée et très persécutée, et l'Église pharisaïque sera pleinement reconnue par tous les États et suivra les traces de l'Antéchrist. Cependant, ne vous inquiétez pas, vous avez ma très sainte mère comme divine pastourelle. Elle vous guidera et la vraie barque ne succombera pas mais flottera au-dessus des eaux, forte et vaillante, et elle donnera de grands martyrs qui émerveilleront l'humanité, l'Église des apôtres Mario. 1972. Mes chers enfants bien-aimés, je suis très peinée par les doctrines hérétiques enseignées aujourd'hui dans l'Église catholique. Quelles hérésies, quelles absurdités dans la bouche de ces prétendus ministres du Seigneur. Et pire encore, dans la bouche des évêques et des cardinaux. Combien d'hérésies, quelle confusion. On pourrait dire qu'ils essaient de fonder une nouvelle Église, sous les auspices de Satan. En réalité, les francs-maçons préparent déjà cette nouvelle Église avec des protestants, des juifs et des mauvais catholiques. Mes petits-enfants, fuyez les faux enseignements. Éloignez-vous de ces églises où la doctrine enseignée est hérétique. Parce que tôt ou tard, vous serez tous infectés. 1973. Il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas de vrais prêtres, mais des francs-maçons, des luthériens, des juifs non convertis qui se sont déguisés en mes ministres pour détruire l'Église. Attention! Attention aux prétendues homélies. 1973. Je lance un appel à tout le monde pour que ceux qui le souhaitent puissent venir volontairement dans ce lieu sacré. Parce que la lumière est ici. La vérité est ici. Le flambeau est ici. Pourquoi? Parce qu'il suit la tradition de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il aime intensément le pape. Chaque jour, des prières sont offertes pour le pape au Palmar de Troya. Le pape est très aimé au Palmar de Troya. El Palmar de Troya aime vivement aussi la sainte tradition de l'Église. Alors, où est l'Église catholique, apostolique et romaine? La voici, au Palmar de Troya. Méditez et vous verrez que ce que je vous dis est vrai. 1975. Chaque fois que je contemple une femme dans une église qui élève mon sacro-saint corps pour donner la communion à quelqu'un, je reçois un gifle terrible dans mon visage divin. Je veux que vous sachiez qu'aucune de ces femmes qui administrent la sainte communion n'est autorisée par le Saint-Père. Mon vicaire n'en a pas autorisé une seule. Les évêques arbitraires l'ont fait, des évêques appelés pasteurs, mais qui effraient les brebis, les chassant du bon chemin. Oh, quelle immense douleur me causent certains de mes ministres! J'ai utilisé le fouet pour chasser les marchands du temple. Il y a d'autant plus de raisons pour l'utiliser maintenant. Le Saint-Père, le martyr du Vatican, ne peut plus rien faire. Il souffre seul, il n'a pas de collaborateurs, ils ne lui obéissent pas et chacun fait ce qu'il veut. Et je m'adresse également à vous, mes filles, n'entrez pas dans l'Église sans voile. Rappelez-vous les paroles de Saint Paul. Il n'y a jamais eu de contre-ordre de l'Église à ce sujet. 1971. Je vous adresse également la parole, mes ministres, qu'avez-vous fait du saint sacrifice de la messe? En quoi l'avez-vous transformé? Dans un bal masqué. Satan est très à l'aise dans de nombreuses églises, où le véritable sacrifice n'est pas offert au Père. Qu'avez-vous fait de la musique sacrée, de l'encens, de l'or en hommage à Dieu? En quoi avez-vous transformé les autels? Vous avez mal compris la pauvreté de l'Église. On donne à Dieu le meilleur du meilleur, et vous, mes ministres, vous êtes ceux qui doivent vivre dans la pauvreté. Mais ne pas appauvrir le culte, mais votre propre vie privée. Salomon a été sauvé par le grand temple qu'il a construit pour Dieu. Marie-Madeleine a oint mes pieds du meilleur parfum, et je l'ai béni. Mais il y aura toujours des Judas qui voudront supprimer le culte à Dieu et le donner aux hommes. Ô misérable humanité! Ô mon Église! Comme je suis triste! À vous, les prêtres, je vous demande, qu'avez-vous fait du sacro-saint latin? En quoi la langue officielle de l'Église vous gêne-t-elle? Combien de saints ont parlé dans cette langue bénie? Mais vous croyez que les langues vernaculaires sont plus belles? Vous vous trompez beaucoup! Mes chers ministres, vous n'êtes pas encore trop tard. Si nécessaire, célébrez la messe chez vous plutôt que de célébrer indignement à l'Église. C'est pourquoi, ici dans ce lieu sacré, ont été célébrées des messes agréables au Père Céleste en raison de l'authenticité du sacrifice. Plus tard, je continuerai à parler de la Sainte Messe, à vous mes ministres, le sel de la terre, vous qui devenez maintenant insipides. Je vous bénis. 1971. Je suis heureux du saint sacrifice de la messe que le prêtre, et vous aussi, m'avez offert, chacun dans son rôle correspondant. Un sacrifice authentique, comme l'a enseigné la Sainte Mère Église depuis des siècles, et pas ces messes novatrices, pleines de confusion, d'imprécision et d'ambiguïté. Que personne ne l'oublie, dans le saint sacrifice de la messe, Jésus-Christ subit une crucifixion sans effusion de sang et répand son très précieux sang. Si vous retirez le saint sacrifice de l'Eucharistie, que reste-t-il? Où est la victime? Il est nécessaire, urgent, que la messe traditionnelle soit rétablie dans le monde entier, car en continuant ses innovations dans ce qui est le plus sacré pour l'Église, la confusion sera plus grande. Je vous bénis. 1972. En si peu d'endroits, cet authentique sacrifice de la Sainte Messe est offert au Père. Dans lequel sont gardés à l'esprit ma mort sur le calvaire, mon sang versé et mon sacrifice sans effusion de sang, mais réel. Aujourd'hui, on parle tant de banquets, de célébrations de l'Eucharistie, mais le calvaire est oublié. À quoi servent tous les holocaustes si la croix du calvaire et mon sang répandu sont oubliés? Criez partout pour que le plus grand nombre de signatures soient envoyées pour demander à mon cher vicaire de rétablir la messe tridentine de Saint Pie V en latin. Il veut la rétablir, mais il est entouré de nombreux ennemis. Priez beaucoup pour qu'il puisse supporter la terrible croix qui pèse sur ses épaules, une croix que ses propres enfants ont fait peser sur ses épaules. Il est sur le point de faire connaître des documents importants, mais ses ennemis font pression sur lui pour qu'il ne soit pas révélé. Priez pour lui, votre Père sur terre, le martyr du Vatican. 1972. La très sainte Vierge Marie, mon fils, je suis très en colère contre les églises modernes, car il y a un manque de respect et d'honneur envers Dieu. Il y a beaucoup de froideur. Elles n'invitent pas au recueillement et à la méditation. Elles ne font pas voir aux fidèles leur misère et leur néant devant le Dieu Tout-Puissant, car tout a été tellement humanisé qu'il n'y a aucun moyen de trouver Dieu. Les images du Jésus crucifié n'inspirent pas le recueillement et ne reflètent pas la douleur de cette passion, ni l'espoir du salut. Les images qui me représentent n'inspirent pas non plus dévotion, et les fidèles se retirent car ils ressentent la froideur, l'indifférence et la négligence. Dans de nombreuses églises, on voit des images de la Vierge indifférente à ses enfants, comme si elle n'avait rien à voir avec l'œuvre de la rédemption. Mes enfants s'approchent de ces images comme s'il s'agissait d'une artiste. Ils ne réalisent pas qu'elles sont la représentation de la Mère de Dieu et leur mère. Ne parlons pas de ces images du Sacré-Cœur de Jésus qui représente un Seigneur froid, égoïste et humanisé, qui n'inspire pas la douleur du péché, et ne fait pas des conversions, car il semble être un être humain comme les autres, sans tenir compte de sa divinité. Mes enfants bien-aimés, je suis très fâché parce que mon très chaste époux, Saint Joseph, est supprimé dans les églises, alors qu'il est le Père universel de l'Église. Mes enfants, n'écoutez pas ces nouvelles Judas qui, sous prétexte d'aider les nécessiteux, se débarrassent des images. Soyez assurés que les images, lorsqu'elles sont ornées gracieusement, sont une prière qui monte vers le Père, puisqu'en personne cela ne peut se faire. Le renouveau de l'Église commence. Mes enfants, ne veillez-vous pas à ce que votre mère terrestre soit bien habillée? Et qu'en est-il de votre mère céleste? Continuez avec la sainte tradition de la vénération des images sacrées. Gravez ces mots dans votre esprit, à la Sainte Eucharistie à travers des images. C'est le chemin. S'il y a de la froideur dans la vénération des images, que n'y aura-t-il pas devant le Jésus sacramentel, que nous ne pouvons pas voir, car c'est la foi seule. Mes enfants, contribuez toujours avec vos sacrifices à la promotion de la vénération des images sacrées. Votre Père Céleste vous récompensera. Quel dommage que les saints soient retirés des églises, comme s'ils n'intercédaient pas pour toute l'humanité. En conséquence, dans ce lieu sacré, de temps en temps un autre saint apparaît pour montrer qu'ils sont au ciel, en plus de glorifier Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et moi, leur mère, ils intercèdent aussi constamment. Je souhaite que ce message soit publié partout en cette heure d'attaque contre la vénération des images sacrées. Je vous bénis. 1970. Écoutez, un prêtre avec une soutane donne plus d'exemples que ce que beaucoup d'entre vous peuvent imaginer. C'est un signe. Il porte des vêtements spéciaux, car ils représentent un royaume pas de ce monde. Ils sont des ministres d'un autre royaume, leurs vêtements sont en accord avec le royaume qu'ils servent. Les soldats de France ne s'habillent pas de la même façon que les soldats d'Angleterre. Ce sont des royaumes différents. Ainsi, mes ministres doivent porter un signe perceptible qu'ils appartiennent à mon royaume. Il y a une raison importante. Considérez, un prêtre bénéficie spirituellement en portant la soutane pour de nombreuses raisons, car en portant ce signe, il y a beaucoup de choses qu'il ne fera pas, car il donnerait un mauvais exemple. Mais s'il est en civil, il perd souvent la notion d'être prêtre et alors, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Alors, mes petits-enfants, vous les prêtres, sortez de nouveau votre soutane. Portez ce vêtement royal, car il représente un noble royaume, car il représente votre ministère, que vous êtes des ministres. Restez en dehors de la politique et répandez mon royaume. Mettez de côté les vanités. 1972. Éloignez-vous des pasteurs hérétiques. Aujourd'hui, malheureusement, en les désignant comme les frères séparés, la notion d'hérésie a été perdue. Aujourd'hui, tout est discutable, tout est relatif. Et avec le temps, tout le monde tombe dans la même hérésie, louant les calvinistes et les luthériens. Mais que se passe-t-il dans mon Église? Mais, la vérité de l'Église a-t-elle changé aujourd'hui? Est-ce que les choses condamnées auparavant ne sont pas condamnées aujourd'hui? Est-ce que ce qui était autrefois une hérésie n'est pas une hérésie aujourd'hui? Non, mes enfants. Ce qui était auparavant une hérésie est aujourd'hui une hérésie, si cela a été déclaré par la cathèdre de Pierre. Combattez le calvinisme. Combattez le protestantisme. Combattez le luthéranisme. Regardez, mes enfants, le danger est plus grand aujourd'hui, car le calvinisme et le luthéranisme sont à l'intérieur du catholicisme. C'est le plus grand danger, l'hérésie au sein du catholicisme. Auparavant, c'était à l'extérieur et vous saviez d'où ça venait. Mais aujourd'hui, vous l'avez à l'intérieur. Combattez-les. Je suis votre bannière, moi, Jésus-Christ et Marie Immaculée, avec Pierre en la personne sacrée de Paul VI. C'est l'Église. En finir avec les innovations hérétiques. Le Seigneur a condamné immédiatement le soi-disant Novus Ordo Missae, la messe concoctée et imposée en novembre 1969, élaborée et fabriquée par des hérétiques et pas par le pape Paul VI. Et il a exigé un retour à la vraie messe, à savoir le saint sacrifice dans lequel le calvaire est vraiment perpétué et le sang versé pour la rédemption de l'humanité, sacrifice sans effusion de sang mais réel, et il a désigné le Novus Ordo Missae comme un banquet, un souper, et par conséquent, un pseudo-messe. La vraie messe, à savoir le saint sacrifice de la messe, ne peut pas être échangée contre une fausse messe qui n'est pas un sacrifice, mais un banquet, comme dans le cas du Novus Ordo Missae satanique. Et le Seigneur poursuit en disant, que se passe-t-il dans les messes d'aujourd'hui? Que tout est relatif, ça peut être un banquet et pas plus, juste un souper. Je vous demande, qu'est-ce qu'un banquet sans le sacrifice? Un banquet nul. Qu'est-ce que l'Eucharistie si le sang n'est pas versé? Une Eucharistie nulle. Mes petits-enfants, au lieu sacré des apparitions, vous apprenez à revenir à la sainte tradition de l'Église. Ce sont les authentiques séminaires. Écoutez, j'ai souvent dit. Aujourd'hui, en utilisant des langues vernaculaires, la vérité devient défigurée, tout le monde traduit comme il veut. Comme il est triste de voir comment la vérité est déformée par petites formules maçonniques. Regardez mes enfants, comment avec si peu de mots ils arrivent à l'hérésie, mais masqués, comme aujourd'hui ils savent bien le faire. Au moins à l'époque du luthéranisme, ils ont ouvertement attaqué la vérité. Mais aujourd'hui, l'hérésie est camouflée au milieu de vérité et de mensonges. Cela explique mon insistance sur la messe en latin, parce que le texte doit être le vrai, et non le camouflé. De plus, pourquoi est-ce que je demande toujours la messe tridentine de Saint Pie V? Parce qu'il contient toutes les vérités de la foi sur le Saint Sacrifice, ouvertement, sans ambiguïté ni relativisme. Aujourd'hui, ils disent l'Église est adulte, on ne peut pas imposer, il y a la liberté d'expression. Si la liberté d'expression existe, pourquoi alors ces prêtres qui célèbrent la messe selon la sainte tradition sont-ils interdits, réduits au silence et expulsés de leurs églises? Où est cette liberté d'expression? L'Église traditionnelle est accusée d'être dictatoriale. Mais l'Église progressiste, n'impose-t-elle pas le progressisme, peu importe qui s'y oppose, et quel qu'en soit le coût, et n'enlève-t-elle pas les postes aux meilleures personnes pour le fait qu'elles sont traditionalistes? Mettez fin à la dictature. Si la dictature traditionnaliste doit être abolie, vous pouvez abolir la dictature progressiste. Ici, il ne peut y avoir que deux camps, traditionaliste et progressiste. Pas de demi-mesure. Je serai avec les traditionalistes, parce qu'ils seront ceux qui resteront mon Église et régneront avec moi dans le royaume de la paix, dans mon prochain avènement. Les progressistes suivront l'Antéchrist et son faux prophète, qui viendra bientôt. Par conséquent, je demande à tous les prêtres qui m'écoutent, qui sont ici présents, à qui je m'adresse en tant que bon pasteur, en tant que grand prêtre, en tant que prêtre éternel, à vous qui êtes prêtre, sacerdo in aeternum, selon l'ordre de Melchisédek, vous, les prêtres, retournez à l'authentique sacrifice de l'autel. 1972. Notre Seigneur Jésus-Christ, une énorme catastrophe plane au-dessus de la surface de la terre. Seule la prière et la pénitence sont capables de retenir tout ce qui vient. Mes chers enfants, vous seuls pouvez apaiser la sainte colère du Père éternel, car vous avez l'authentique messe, la messe qui fait réparation. Vous avez le calvaire. Dans l'église officielle, il ne reste qu'un banquet. Ils ont perdu la notion de calvaire. Et dans de nombreuses églises, cela a été transformé en une commémoration de la scène, rien de plus. Vous avez le passe-partout d'où proviennent les grâces pour l'église et pour le monde. Pauvre humanité. Les nations se dévoreront les unes les autres et Satan régnera pendant un certain temps. 1977. Bientôt le terrible schisme viendra. Cependant, mettez-vous à l'abri sous le manteau sacré de ma très sainte mère et vous trouverez la lumière, le chemin, et vous pourrez voir où se trouve le pape. Hélas pour le prochain pontificat. De terribles luttes, des cardinaux qui se battront pour défendre l'antipape. Des évêques et des prêtres qui suivront l'exemple de l'antipape. Les sécularisations vont venir, les frères et les religieuses abandonneront leur prieuré et s'engageront au service de l'antipape. Pour sortir indemne de cette situation chaotique, la réponse est la suivante. Priez, 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 faire de la pénitence. Voyez-vous, mes enfants, ce n'est que par la prière et le sacrifice que vous pourrez triompher avec moi. Qu'importe que vous cessiez d'aller au cinéma ou de regarder la télévision, ces distractions païennes si nombreuses qui transforment l'homme en brute, car il sépare l'homme de moi en exposant de la pornographie, en affichant de la fierté humaine. 1970. À cette heure de crise dans l'Église, les dogmes mariologiques sont attaqués avec toute fureur, avec tout pouvoir diabolique. Marie est attaquée plus violemment que jamais auparavant, parce que c'est aussi son heure, c'est l'heure de Marie. Il y a même des évêques dans le monde qui veulent abolir les dogmes mariologiques, sous prétexte d'union avec les protestants et les schismatiques. Les pauvres évêques. Ils vont suer du sang. Aujourd'hui, à cette heure cruciale pour l'Église catholique, apostolique et romaine, il y a beaucoup qui veulent mettre fin à la vénération de Marie, reine des cieux et de la terre, trésorière de grâce, car ils savent qu'elle est la pastourelle du troupeau, et qu'étant avec elle, il n'est pas si facile de s'égarer. Pourquoi toute cette crise? Parce qu'en pratique très peu d'ecclésiastiques prient le Saint-Chapelet. D'où l'une des raisons. Aujourd'hui, la norme est action, action. Mais ils n'ont pas recours à la prière. L'action sans la prière est du temps perdu. La prière, mes enfants, la prière, pas seulement mentale, mais vocale aussi. La prière vocale a beaucoup d'ennemis, sous prétexte qu'il s'agit d'une routine, prière après prière, sans valeur. Mais ils ne réalisent pas que moi-même, j'ai enseigné le Notre Père et j'ai dit que c'est ainsi que vous devez prier. Alors, je veux de la prière vocale. Il est également vrai que si l'on récite des prières sans y mettre tout son cœur, elles n'ont aucune valeur. Vous devez méditer sur ce que vous faites et à qui vous vous adressez, en essayant de ne pas être distrait et en jouissant du paradis de façon anticipée à travers les grâces reçues et en offrant les souffrances et les épreuves. Il ne suffit pas de réciter de nombreuses prières avec les lèvres si l'âme n'est pas en elles. C'est difficile. Par conséquent, il est plus méritoire. Il n'y a donc pas de prétexte pour supprimer le chapelet. De plus, en ces temps, il est plus nécessaire que jamais. 1972. Mes enfants, en avant. Avec la prière et la pénitence, vous vaincrez et remporterez le triomphe pour moi, qui suis votre mère. Priez. Par vos prières, vous allez sauver beaucoup d'âmes. Ne pas abandonner la prière. Regardez, pendant de nombreux siècles, le salut de l'Église a été entre les mains de petites religieuses consacrées à la prière, elles sont de véritables paratonnerres contre la sainte colère du Père. Je souhaite que ce message soit publié aux quatre vents. 1971. Mes petits-enfants bien-aimés, ne dépréciez pas les prophéties, car elles sont un don de Dieu et un avertissement à l'Église et à l'humanité. Vous ne recevrez pas beaucoup plus d'avertissements maintenant. Je m'adresse également à vous, mon épouse, en référence à l'Église. Toi aussi, tu recevras de grands châtiments. Chaque jour tu te prostitues davantage. Rappelle-toi le passage de la grande prostituée et de Babylone la grande. Tout cela te concerne, chère épouse. Souviens-toi de tes caprices et de tes pactes avec Satan. Tu as fait de la place dans ton sein pour les émissaires de la bête, communistes, francs-maçons, luthériens, calvinistes et d'autres hérétiques. Vous démolissez la Sainte Écriture et présentez les mystères de manière ambiguë. Vous adultérez la foi, vous enseignez des vérités avec des mensonges. Vous laissez de côté les saints évêques, les saints cardinaux, les saints prêtres et les bons religieux, et vous leur rendez la vie impossible, ceux qui gardent l'intégrité de la foi. En résumé, vous leur faites la guerre froide, vous les retirez de leur poste et vous les qualifiez d'anticonciliaires. Cependant, vous avez répudié l'acceptation de tous les saints conciles, fondant une nouvelle Église à partir du Concile Vatican II. Ce qui n'est pas un concile du tout, mais un concile que vous avez inventé et interprété selon vos propres caprices, afin d'adultérer la vérité et de rompre avec la sainte tradition, qui a forgé de grands saints. Le Père Céleste va très bientôt vous purifier et vous raffiner. Je lance un appel aux vrais cardinaux, évêques, prêtres et religieux, restez fermes dans la foi, dans la tradition et dans le magistère authentique. Écoutez, faites cela, afin de ne pas être pesés dans la balance, jugés insuffisants et réprouvés. Vous, les bons et les vrais, me font plus de mal que les autres, par votre posture de bras croisés. De crainte qu'en gardant cette posture, votre Père Céleste ne vous dise, parce que vous êtes tiède, vous êtes abominable à mes yeux. Je vais vous vomir. Vous avez été appelé à rétablir le latin dans l'Église et pour obtenir le retour de la Sainte Messe Tridentine en latin de Saint Pie V. Méfiez-vous des traductions du latin au vernaculaire, car il s'agit d'un moyen de falsifier la vérité. Lorsque vous constatez de tels abus, élevez la voix, comme c'est le devoir des pasteurs qui prennent soin de leurs moutons. 1972. Où est maintenant ce culte glorieux et respectueux qu'on donnait à Dieu ? Cherchez-le sur ce mont sacré et dans d'autres endroits similaires à travers le monde. Ce ne sera pas facile à le trouver dans les églises, car les églises ont été profanées par les ministres du Seigneur eux-mêmes. C'est ce qui cause la douleur, c'est la passion de l'Église, la maison du Père profanée par ceux qui sont considérés comme ministres du Seigneur. En réalité, ce sont des ministres de Satan, des ministres de l'Antéchrist, qui préparent les voies de l'Antéchrist, confondant les moutons avec un faux œcuménisme, une fausse charité fraternelle, oubliant la charité envers Dieu, le commandement suprême au-dessus de tous les commandements. Aujourd'hui, je vous parle en tant que mère, pastourelle et doctoresse, pour confondre les sages, les prudents et les grands soi-disant théologiens, qui ne le sont pas du tout. 1974. La vraie obédience. Cette hiérarchie officielle de l'Église actuelle, si œcuménique et si sociale, a demandé de manière satanique que les prêtres célèbrent la messe face au peuple, par respect pour le peuple, pour être plus sociable avec le peuple, ce peuple de Dieu si choyé. Alors que célébrer en me tournant le dos ne les inquiète pas. 1978. La fausse obédience était l'arme de Satan, attention à la fausse obédience. C'est très commode d'obéir à un évêque en sachant qu'il est dans l'erreur. Mais malheur à ceux qui, sachant qu'ils sont guidés par les aveugles, les suivent. Les pauvres âmes. Ils recevront aussi ce qu'ils méritent. Regardez l'Église en Belgique, en Hollande, au Mexique, en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays, là, on vit dans une hérésie manifeste. Pourquoi ? Parce qu'on obéit aux pasteurs qui enseignent les hérésies. Méfiez-vous de la fausse obédience à la hiérarchie de l'Église, car lorsque les droits de Dieu et le salut des hommes sont en jeu, il n'y a pas d'autre pouvoir sur la terre que celui de celui qui a reçu tout pouvoir du Père. 1971. Ô mes enfants, soyez prudents. L'ange rebelle, Satan, se déguise en ange de lumière d'apparence humble, demandant l'obédience de la hiérarchie, alors que beaucoup d'eux sont dans l'erreur et profondément désorientés. Prenez garde. Comment pouvez-vous obéir à quelqu'un qui a commis une erreur sans tomber dans la même erreur ? Attention à la fausse obédience. L'obédience aveugle est impossible dans ces temps où l'Église traverse une telle confusion, de terribles tempêtes et un brouillard épais. L'obédience aveugle est impossible en ce moment. Réfléchissez et clarifiez ce à quoi vous devez obéir. Regardez, mes enfants, le peuple juif, porteur des vérités sacrées, savait que le Messie allait venir. Le dimanche des rameaux, j'ai été glorieusement reçu à Jérusalem. Quelques jours plus tard, le peuple, empoisonné par les chefs des prêtres de l'Église, a demandé ma crucifixion. Pourquoi ? Parce qu'ils ont aveuglément obéi à ces chefs des prêtres alors qu'ils se trompaient, Caïphe et Anne. Les deux invitaient le peuple à me faire crucifier. Et le peuple, soumis et obéissant, a demandé ma mort, parce que les chefs des prêtres l'avaient demandé. Les gens étaient soumis à eux. Et néanmoins, à cause de cette obédience, le peuple juif a été condamné à errer jusqu'à sa conversion. 1972. Ô mes enfants, méditez sur l'obédience. Regardez, beaucoup se sont égarés en obéissant à des évêques égarés. Regardez le luthéranisme, tout cela à cause de la fausse obédience. Regardez tous les schismes qui ont eu lieu dans l'Église, tous causés par une obédience aveugle au pasteur. Je suis le premier, avant mes ministres égarés. Pensez-y, mes enfants, dans l'histoire de l'Église, combien d'évêques ont été hérétiques. Regardez l'évêque Nestorius, grand hérétique de l'Église primitive, combien sont tombés dans l'hérésie en le suivant. Ô mes enfants, lisez l'histoire de l'Église et vous trouverez la lumière. Je suis la lumière, la vie, le chemin, le salut. Tous les évêques ne parlent pas en mon nom. Tous les cardinaux ne parlent pas en mon nom. Tous les prêtres ne parlent pas en mon nom. Nombre d'entre eux parlent au nom de Satan, car la franc-maçonnerie et le marxisme ont infiltré l'Église. 1972. La profanation des églises. C'est triste. Cette heure est profondément triste. Parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent conduire par une fausse obédience, par une fausse charité, conscients du mal qui dépérit l'Église. Et même s'ils savent que certains évêques sont même contre le Très-Saint-Père à Rome, ils disent qu'il faut leur obéir. Obéir à un évêque égaré ? 1972. De nos jours, malheureusement, dans l'Église, il y a chaque jour moins de respect pour Jésus sacramentel. Chaque jour, les sacrements sont davantage négligés. Il est urgent de revenir à la sainte tradition qui a donné tant de saints à l'Église. Et il est urgent de rester à l'écart du progressisme qui menace l'Église. Écoutez la voix du pape, prévenant l'infiltration satanique dans l'Église. Écoutez la voix du pape qui vous dit à tout que le démon confond et détourne de nombreux membres de l'Église. Écoutez le vicaire du Christ, annonçant au monde que Satan s'est infiltré jusqu'au sommet de l'Église. Soyez prêts, car des temps de plus grande confusion s'approchent jusqu'à ce que, bientôt, l'antipape prenne sa place. Pourtant, ayez confiance en Dieu. L'Église du Christ ne s'effondre pas. L'Église du Christ est assistée par lui, comme il l'a promis, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Restez calme. Jésus est avec l'Église, mais avec l'Église authentique, fidèle au dogme, fidèle à la tradition et fidèle au magistère, l'authentique magistère de l'Église. 1972. Ô mes petits-enfants! Combien de fois Jésus se bouche les oreilles quand il entend des doctrines hérétiques qu'ils enseignent depuis les chaires des Églises. Ce qui était péché hier n'est plus péché aujourd'hui. Ce qui était vérité hier est erreur aujourd'hui. Ce qui était erreur hier est vérité aujourd'hui. La vérité et les mensonges restent sur même plan et les fidèles ne savent pas où se trouve la vérité. Mais c'est facile. Tournez-vous vers le magistère de l'Église au cours de son histoire. Le Saint-Esprit a parlé à travers les siècles et ses vérités sont immuables et éternelles. Vous ne pouvez pas écouter les doctrines opposées à la vérité, peu importe qui est le prélat, car la vérité est une. Tout ce qui s'éloigne de la vérité est anathème. On parle peu de l'anathème aujourd'hui. Aujourd'hui l'erreur est pardonnée et même permise. 1972. Ô petits-enfants bien-aimés, dans quel état se trouve la maison du Père? Quelle profanation! Vous voyez la façon dont beaucoup de femmes vont à l'église, celles qui disent qu'elles sont mes filles. Quel scandale elles donnent par leur comportement, par leur façon de s'habiller et d'agir. Il est essentiel de nettoyer la maison du Père de toute cette impureté. Il est essentiel que la femme entre dans la maison de Dieu comme elle l'a toujours fait. À ce sujet, mes ministres ont plus de responsabilités qu'elle. Et que dire de la manière dont ils reçoivent la Sainte Communion? Si peu de préparation, si peu de respect. Ils oublient que celui qu'ils reçoivent est Dieu lui-même. Ô petits-enfants bien-aimés, quelle fausse doctrine vous apprenez en ces temps? On a rompu avec la tradition de l'Église. On prête l'oreille à de fausses doctrines et retourne à tout ce qui a été condamné dans mon Église. Une fois de plus, les anciennes hérésies sont à la mode. Regardez, mes petits-enfants, la façon dont l'Église va. Le moment est même venu de toucher à l'essentiel, à savoir le saint sacrifice de la messe. Je vous ai souvent dit, que reste-t-il du sacrifice de la messe? Un simple banquet. Il n'y a pas de victime, aucune offrande de la victime Jésus-Christ, au Père. Ô mes chers enfants, il est indispensable que le saint sacrifice de la messe revienne dans mon Église, et cela, je vous l'ai souvent dit aussi. 1974. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des évêques dans l'Église qui tentent de mettre ma mère de côté. Voilà le mal dans l'Église, le moment où de nombreux ecclésiastiques tournent le dos à Marie, qui est la mère de l'Église. Ô mes petits-enfants, regardez ce que vous faites. Faites attention, le fouet tombera sur vos épaules. Comme je l'ai fait dans le temple aux marchands en les chassant, je vais le faire de même avec vous. Parce que vous faites de la maison du Père un repaire de voleurs. Ces églises profanées. Et qui sont les responsables? Vous-même, les évêques et les prêtres. Purifiez vos églises de tant d'impureté. Comment les gens peuvent-ils entrer dans la maison du Père si indécemment? Comment les femmes peuvent-elles être si loin de la dignité de Marie en entrant dans une église habillée de manière indécente, provoquant et scandalisant les autres? Et vous êtes les responsables. Parce que vous avez le pouvoir de chasser le mal de l'église. À l'heure de la justice, la sévérité sera plus grande pour vous. Parfois, les laïcs agissent par ignorance, mais vous savez la conduite à suivre. 1973. Oh, oh, monde dégénéré! Oh l'immoralité! Je m'adresse maintenant à vous, les femmes. Couvrez vos corps, cachez vos bras, car vous provoquez ma colère. Le feu vous brûlera. Vous êtes le scandale des hommes. Couvrez votre nudité. Malheur à celles qui viennent dans ce lieu sacré exposant leur chair, qui peut susciter le scandale et le péché. Comment peuvent-elles venir ici les bras nus ? 1971. La guerre contre le pape. Les nouveaux théologiens et moralistes, pour appuyer leur maudite thèse déviationniste, se sont tournés vers les courants doctrinaux qui se sont produits depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours, passant naturellement par le conciliabule Vatican II. Bien que le Saint-Esprit ait désiré et convoqué le concile Vatican II, le dit divin esprit a été expulsé par une majorité écrasante d'évêques déjà apostats. Ainsi qu'à cause de la petite invocation qui lui a été faite. Par contre, il n'y a aucune garantie sur la véritable signature du pape Saint Paul VI, parce que, tout au long de son pontificat, il a été soumis à la drogue la plupart du temps, de sorte que l'autorité du concile est invalide, puisqu'un concile sans pape à la tête n'a aucune autorité sur l'Église. Un pape drogué, dans les moments où il est sous les effets des drogues, équivaut à un pape nul. Par conséquent, le concile ayant été présidé par un pape sous l'effet de drogue, équivaut à dire que le concile, la plupart du temps, n'avait pas de tête. Dans le conciliabule Vatican II, de mémoire douloureuse pour l'Église, la loi maudite sur la liberté religieuse a été promulguée, en opposition ouverte à la Sainte Écriture, en opposition ouverte à l'enseignement commun des grands et saints docteurs, et en opposition honteuse au magistère infaillible de l'Église. Cette loi monstrueuse et maudite de la liberté religieuse s'oppose aux définitions d'innombrables papes. Le document sur la loi de la liberté religieuse portait la signature du pape Saint Paul VI qui, inspiré par Dieu et avec un courage ardent, a écrit devant sa signature, « La doctrine et les enseignements de nos prédécesseurs vénérés restent toutefois en vigueur. » Par cette clause, le pape a invalidé le document sur la loi de la liberté religieuse. À l'heure actuelle, le document a été diffusé partout, mais sans la clause ci-dessus. L'œcuménisme exécrable et le conciliabule Vatican II, cet œcuménisme pervers mérite une condamnation totale, car dans le but d'un concept d'unité désastreux, il a voulu mettre la vraie Église et les fausses sur le même plan, et a conclu que le vrai et le faux devraient renoncer à ces croyances qui empêchaient la réussite d'une telle unité néfaste. La vraie Église, cependant, n'a jamais renoncé et ne renoncera jamais à aucune des vérités de la foi. Les fausses églises sont celles qui doivent abandonner leurs erreurs si elles désirent être incorporées ou réincorporées, selon le cas, au sein de la vraie Église, seule porteuse de la vérité et arche du salut. Il ne peut jamais y avoir plus d'une bonne religion, car seulement une seule religion peut être la vraie. Tout ce qui n'est pas vrai est mauvais, les mensonges et les erreurs sont essentiellement mauvais. Dieu, qui est la vérité substantielle, aime nécessairement la vérité avec tout l'amour avec lequel il s'aime, c'est-à-dire infiniment, et par conséquent il déteste infiniment l'erreur. Alors, la vérité est une et ne se contredit pas. Deux propositions contradictoires ne peuvent pas être toutes les deux vraies. Cependant, les différentes religions se contredisent. L'une rejette ce que l'autre admet. L'une adore ce que l'autre blasphème. Donc, toutes ne peuvent pas être vraies. Une seule est bonne, car une seule est vraie. Prétendre que toutes les religions sont bonnes, c'est comme si on disait que oui et non, pour et contre, sont tous identiques, ce serait avaler la plus grande des absurdités. Si toutes les religions étaient bonnes, il serait bon pour le catholique de croire en l'Église et pour le protestant de ne pas croire en elle. Ce serait bon pour le protestant de croire en Jésus-Christ, Dieu et homme, et bon pour Mahomet de nier sa divinité. C'est absurde. Et pourtant, ces théories sont présentées comme l'une des grandes conquêtes de l'esprit moderne. À l'époque de confusion et de division qui a suivi ce conciliabule, sous le nom du Concile Vatican II, il était très difficile d'entendre un enseignement sain, car une foule de pasteurs pervers régnait au sein de l'Église. Satan, l'ennemi infernal, avait atteint le sommet de l'astuce, infiltrant le sein de l'Église et disposant de mauvais pasteurs pour répandre et propager de fausses doctrines et même s'opposer à la Reine des cieux et de la terre, la très sainte Vierge, notre Mère. Satan, l'ennemi infernal, avait introduit du poison dans l'Église, car l'ennemi savait que Marie lui écraserait sa tête orgueilleuse. Alors il a installé cette foule de méchants pasteurs à l'intérieur de l'Église pour prêcher contre Marie, ou pour ne rien dire d'elle. Et ainsi, les laïcs aussi ont perdu la lumière et Satan règne dans leur cœur. Au cours de ces années de confusion durant le pontificat du pape Saint Paul VI, la très sainte Vierge a été honorée comme elle le mérite dans ce lieu sacré du Palmar de Troya, tandis que dans le reste de l'Église, ils éliminaient l'honneur dû à la très sainte Vierge, en la retirant des chapelles et des autels qu'elle présidait pour la mettre dans un coin. Ici, dans ce désert du Palmar, on réalisait un culte majestueux comme l'Église avait toujours pratiqué à travers les temps passés. L'Église romaine était plongée dans l'apostasie et la confusion. Combien de prêtres ont été sécularisés? Les frères et les religieuses ne pratiquaient plus les règles de leur fondateur. Pour cette raison, le Très-Haut a rassemblé quelques fidèles dans ce désert du Lentisque du Palmar de Troya, dans un désert qui est à la fois lumière, flambeau et source de l'Église. D'apparence stérile, c'est en réalité un terrain fertile, car il produit de beaux fruits, ceux de la fidélité et de la constance dans la foi et dans l'intégrité du catholicisme apostolique que nous avons hérité de nos ancêtres. L'Église renouvelée. Malgré les obstacles, dans ce désert, l'intégrité de la sainte foi catholique et apostolique reste intacte, par la miséricorde de Dieu. El Palmar de Troya est devenu la pierre angulaire, car il est resté fidèle à l'enseignement traditionnel de l'Église, notre mère. Et parce que les groupes de pèlerins et de fidèles qui viennent assidûment dans ce lieu sacré ont entendu la parole de Dieu et l'ont mise en pratique. Malheureusement, à l'époque de la décadence de l'Église romaine, guidée par de mauvais pasteurs, ces enseignements se sont adultérés et la reine du ciel et de la terre a dû venir et dire, retourner à la prédication de la vraie doctrine que l'Église conserve dans son dépôt sacré. Et comment cette doctrine devait-elle être défendue ? Par le Seigneur en formant un collège épiscopal d'apôtres prêts à donner leur vie pour la défense de la foi catholique. Le 23 décembre 1975, par mandat de notre Seigneur Jésus-Christ, Clemente Dominguez y Gomez a fondé l'Ordre des Carmes de la Sainte Face. Les membres de l'Ordre des Carmes de la Sainte Face sont les apôtres Mario des derniers temps, appelés également les crucifères. C'est le dernier et unique ordre religieux des derniers temps et la véritable continuation de l'ordre du Mont Carmel, fondé par le saint prophète Élie, et réformé par la suite par l'éminente doctoresse sainte Thérèse de Jésus. L'ordre des Carmes de la Sainte Face contient l'esprit de tous les autres ordres religieux fondés au cours de l'histoire. Cet ordre des Carmes de la Sainte Face est composé de trois branches. La première, les religieux, la deuxième, les religieuses, et la troisième, les fidèles tertiaires. Tous les membres de l'Église une, sainte, catholique, apostolique et palmarienne font partie de ce dernier ordre religieux, chacun dans sa propre branche. Tout comme l'ancien ordre des Carmes préparait le premier avènement du Christ en tant que Messie, l'ordre des Carmes de la Sainte Face prépare le deuxième avènement du Christ pour juger chacun et établir le royaume messianique. L'ordre des Carmes de la Sainte Face a pour mission primordiale celle de préparer le deuxième avènement du Christ et celle de lutter avec ténacité contre l'Antéchrist et ses armées infernales. Le 1er janvier 1976, dans le lieu sacré du Lentisque du Palmar de Troya, Clemente Dominguez y Gomez et Manuel Alonso Corral ont été ordonnés prêtres par l'archevêque Saint-Pierre Martin Godin Touc, et le 11 janvier de cette même année, ils ont été consacrés évêques par le même prélat qui est venu de Rome pour mener à bien cette mission transcendante. Après sa consécration en tant qu'évêque, le père Clemente Dominguez a ordonné et consacré beaucoup d'autres, formant ainsi le collège épiscopal palmarien. Tout cela était le motif d'une terrible persécution de la part de la hiérarchie ecclésiastique romaine officielle, à tel point que le père Clemente Dominguez, le 6 avril 1976, a quitté l'Espagne pour s'exiler, avec le père Manuel Alonso et d'autres évêques et frères par ordre d'un juge d'Utrera, sous la pression constante du cardinal apostat de Séville, José Bueno Monreal, féroce persécuteur des apparitions du Palmar de Troya, malgré les nombreuses preuves dont il disposait de la véracité de ces apparitions. Le 29 mai 1976, au cours de l'un de ses infatigables voyages apostoliques, le père Clemente Dominguez a perdu les deux yeux dans un accident de voiture, une souffrance inimaginable pour lui. Désormais aveugle, il a poursuivi son apostolat avec la même intensité comme avant, à travers l'Espagne et les autres nations européennes et américaines, et il a proclamé dans ses sermons la vraie foi, la tradition et la sainte morale, il a défendu avec vigueur le pape Saint Paul VI, attaqué par les progressistes et les traditionalistes, et il a dénoncé surtout les hérésies et profanations répandues par les cardinaux et les évêques du Vatican et des différents diocèses. En 1976, notre Seigneur Jésus-Christ, pendant une de ses merveilleuses apparitions, a promis la papauté, la primauté de l'Église, au père Clemente, en ces termes, « Tu seras le futur Pierre, le pape qui consolidera la foi et l'intégrité dans l'Église, luttant contre les hérésies avec une grande force, car des légions d'anges t'assisteront. » Le grand pape Grégoire, la gloire des olives. L'évêque primat du Palmar de Troya, d'abord sous le nom de Père Clemente, et ensuite sous le nom religieux de Père Ferdinand, était la voix qui clamait dans l'Église au nom du souverain pontife romain, qui ne pouvait pas agir ni parler librement. Par volonté expresse de Dieu et jusqu'à la mort du pape Saint Paul VI, l'évêque Père Ferdinand a exercé la plus haute fonction de sous-vicaire du Christ dans l'Église. Le 1er janvier 1977, l'évêque Père Clemente, a couronné canoniquement l'image sacrée qui est aujourd'hui dans le camarin du Lentisque sous le vocable de Notre Mère du Palmar couronné. Le Seigneur a formé le collège épiscopal du Palmar de Troyes en union avec le pontife romain Paul VI et conformément à la succession apostolique. Ainsi, le Seigneur a tenu sa promesse d'assister à son Église jusqu'à la consommation des siècles. Au cours de tous ces siècles, il a assisté son Église de mille manières, le susmentionné est un des moyens que le Christ utilise pour assister son Église. Le Christ n'abandonne pas son Église. Le Christ reste avec son Église. Par conséquent, lorsque tant de pasteurs avec mitre et crosse prêchent aujourd'hui contre la vraie doctrine, quand tant d'évêques ne prêchent pas sur Marie, cela n'étonne pas que le Seigneur ait formé ce collège d'évêques pour prêcher ce que l'Église a toujours prêché. Combien d'ennemis du Christ il y avait à l'intérieur de l'Église, vêtus de crosse et de mitre? Quel extrême la malice avait atteint à l'intérieur de l'Église! Ce collège épiscopal palmarien, dont les membres ont l'honneur d'être désignés évêques Mario, prêchait partout sur Marie, et a coupé court aux enseignements hérétiques qui s'introduisaient dans l'Église. Il élevait sa voix puissante contre tant d'ennemis infiltrés à l'intérieur de l'Église et ils étaient disposés à sacrifier leur vie pour la défense de la vérité catholique, pour la défense des enseignements du Christ, pour la défense des gloires de Marie, pour la défense de la foi dans son intégrité catholique et apostolique, entièrement soumis au pape Saint Paul VI, le dernier pape à Rome. Dans la Sainte Écriture, il était déjà annoncé que le jour viendrait où la saine doctrine ne serait plus soutenue et où de faux docteurs, de faux prophètes et de faux pasteurs surgiraient. Les faux pasteurs présents dans l'Église ont nié la vérité du Palmar de Troyes. Cependant, la validité de la consécration épiscopale d'un évêque progressiste est plus douteuse, car ni l'intention de l'évêque qui consacre ni celle du consacré ne sont garanties, en raison de la présence des francs-maçons infiltrés dans l'Église, car ces francs-maçons sont les ennemis de l'Église, déguisés en pasteurs. Par conséquent, face à face devant Dieu, considérons et demandons au Seigneur, où sont tes pasteurs authentiques? Il ne tardera pas à nous répondre, les voilà, au Palmar. Combien d'évêques et de prêtres en ces temps post-conciliaires consacraient leur sermon du dimanche à parler de politique, de sociologie et de socio-économie, et ont oublié de parler des vérités éternelles. Et ont oublié de parler des gloires de Marie, des prérogatives que Dieu a accordées à cette dame exaltée. Combien d'évêques, les bras croisés, ont permis à des légions de prêtres de répandre de fausses doctrines partout. Il y avait des prêtres à cette époque qui niaient l'existence de l'enfer. Et nous savons tous que l'existence de l'enfer est dogmatique, étant donné que le Christ lui-même parle encore et encore du feu éternel dans le Saint-Évangile. Combien ont nié la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie encore, sang, âme et divinité? Combien d'autres dogmes ont-ils nié? Tant d'enseignements contaminés. Des prêtres traditionnels de partout ont été priés de prendre courage, d'abandonner leur salaire et leur vie confortable pour venir à ce lieu, la cathèdre, la lumière et le flambeau de l'Église, disposés à recevoir la consécration épiscopale pour la défense de l'Église. Cependant, dans leurs paroisses et cathédrales des différentes villes, il y avait beaucoup de prêtres accommodants qui savaient que le mensonge avait infiltré l'Église et qui ne disaient rien par lâcheté, sachant que celui qui permet les faux enseignements est tout aussi coupable que celui qui les propage. Ils étaient des lâches et la lâcheté est encore pire que la fausseté des pasteurs iniques de l'époque. Un prêtre qui sait qu'ils enseignent le mensonge, qui sait qu'ils corrompent la doctrine et reste tranquillement à son poste, percevant son salaire, confortable et insoucieux, n'est pas digne du royaume des cieux. Car il faut suivre le Christ jusqu'à notre dernier souffle. Et si c'est nécessaire, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, jusqu'à la perte de tout confort, de toute amitié, si c'est nécessaire. En un mot, tout perdre, humainement parlant, pour gagner le ciel. Combien de prêtres lâches y aura-t-il en enfer? Car un prêtre n'a pas le droit de garder le silence, voyant la fausseté tout autour de lui comme c'était à cette époque, et permettant tant de profanation, tant d'indécence à l'intérieur de l'Église, tant d'impureté, sans prendre du courage et accepter la croix. Quelques prêtres traditionalistes se sont levés, et avec le courage et l'esprit de martyr, sont venus au Palmar de Troyes où ils ont reçu la consécration épiscopale, en tant que successeurs des apôtres, unis au chef de l'Église, alors, le pape Paul VI. Ils étaient les rares qui reconnaissaient la parole de Dieu donnée dans ce lieu sacré au moyen d'instruments pauvres, de pauvres et faibles pécheurs. Ils ont accepté la croix, la persécution et ils ont défendu l'intégrité de la foi catholique, apostolique et romaine, et ils ont défendu les prérogatives de la Vierge Marie notre Mère. Ils ont abandonné leur poste aisé et sont venus dans ce lieu d'incompréhension, dans ce lieu de persécution. L'Église, minée par de faux pasteurs, traversait une crise de confusion, d'erreur, de division, d'hérésie, et d'apostasie. La barque traversait des tempêtes comme elle n'avait jamais traversé auparavant. Seul un petit groupe conservait l'intégrité dans la foi. El Palmar de Troya devait rétablir la sainte tradition de l'Église, la sainte doctrine, la foi catholique. Les évêques du Palmar se sont battus pour défendre l'Église et, surtout pour préserver la foi, la doctrine, la tradition et l'intégrité, pour rétablir la sainte messe tridentine en latin de Saint Pie V. Et ils ont condamné les hérésies et les erreurs du progressisme diabolique qui régnait dans l'Église. Le pape ne les a jamais condamnés pour cela. C'était une époque glorieuse pour l'Église, au milieu d'une période d'amertume, celle du Palmar en union avec le pape Paul VI, martyr du Vatican. C'est ainsi que l'Église a commencé à ressurgir, avec un bon collège épiscopal au Palmar. Par mandat divin, le siège et la cathèdre de Rome a été transféré au Palmar de Troya, lorsque Rome est devenue la grande prostituée des derniers temps, accomplissant ainsi la chute apocalyptique de Babylone la Grande ou la ville des sept collines. Le nouveau Saint-Siège de l'Église, El Palmar de Troya. La Sainte Bible dans le livre de l'Apocalypse raconte, le dragon s'est arrêté devant la femme en travail voulant engloutir son fils quand elle l'aurait accouché. Elle a donné naissance à un enfant mâle qui devait gouverner les hommes avec une verge de fer. Et ce fils a été pris par Dieu à son service, et pour qu'il s'assoie sur le trône de son siège sur la terre. Cette naissance de l'enfant mâle symbolise l'élection, par le Christ, du pape Saint Grégoire le Très Grand à Santa Fe de Bogota, en Colombie, le 6 août 1978. Cette élection papale a eu lieu à la suite du décès du pape Saint Paul VI, le dernier avec siège à Rome. À partir de ce moment-là, et avec le transfert du Saint-Siège au Palmar de Troya le 9 août 1978, la véritable Église du Christ est une, sainte, catholique, apostolique et palmarienne, puisque l'Église romaine a apostasié. Le dragon a décidé de persécuter férocement la femme qui avait accouché l'enfant. Mais deux ailes d'un grand aigle ont été données à la femme pour qu'elle puisse voler dans le désert, à l'endroit que Dieu lui avait préparé, et où elle est gardée pendant un temps, deux temps et un demi-temps, de la présence du serpent infernal. Ce passage décrit profondément le transfert de la cathèdre de l'Église de Rome au Palmar de Troya par le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand. Ce transfert a eu lieu lors du voyage qu'il a fait en avion le 9 août 1978 de Santa Fe de Bogota au Palmar de Troya, Séville, Espagne. Dieu veut que tous sachent où se trouve la vérité, et il a donc donné des signes, comme il le faisait à la naissance du Christ, le Seigneur Dieu lui-même vous donnera un signe, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et son nom s'appellera Emmanuel. Pour les saints rois d'Orient, une étoile miraculeuse serait le signe indiscutable que le Rédempteur était né. Un ange a annoncé au pasteur, ne craignez pas, car je vous apporte une très joyeuse nouvelle qui sera pour tout le peuple, ce jour est né pour vous le Sauveur, le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ce sera le signe pour vous, vous trouverez l'enfant dans une grotte, emmailloté dans des langes et dans une mangeoire. Même le méchant roi Hérode avait des signes par lesquels il aurait pu savoir où le Christ devait naître, à Bethléem de Juda, parce que c'est ainsi que le prophète Michéa l'a écrit. En ces temps également, le Seigneur donne des signes, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent savoir où lui et son Église se trouvent. Il l'a révélé à travers les apparitions au Palmar de Troya. En outre, il l'a annoncé à l'avance à travers ses prophètes dans la Sainte Bible. Que ceux qui veulent connaître la vérité se tournent aussi vers la Sainte Écriture, comme l'a dit notre Seigneur aux Juifs, examinez les Écritures, que vous considérez comme une garantie de la vie éternelle, car ce sont elles qui me rendent témoignage. Cependant, comme vous ne souhaitez pas venir à moi pour avoir la vie, vous n'acceptez pas les prophéties, même si vous voyez la vérité en elles. Si par l'aspect du ciel vous savez distinguer le bon ou le mauvais temps qu'il va faire, comment ne savez-vous pas connaître les signes clairs de ces temps? Alors, examinez les Écritures. Dans l'Apocalypse, il est prophétisé que tous ceux qui veulent obtenir le salut de leurs âmes devront nécessairement échapper aux griffes abominables de la grande prostituée assise sur la cité des sept collines, Rome, puisque le salut n'est possible que dans le bercail de la véritable Église du Christ, actuellement dans le désert, et que la ville des collines, sur laquelle se trouve le siège et le trône de la grande prostituée, va être détruite par le feu. Il est facile de montrer que l'Église romaine, par sa prostitution, est devenue la grande prostituée, car les abominations de Rome sont évidentes pour tous. Elle a abandonné les saints enseignements des apôtres, elle fait des pactes avec les ennemis du Christ, elle respecte toutes les religions, l'Église romaine d'aujourd'hui, pâturée par les usurpateurs, prêche la vérité et les mensonges à la fois. Cette Église romaine qui a été abattue et piétinée par les ennemis du Christ, a ouvert les portes elle-même. Il faut savoir que la vraie Église n'est plus romaine. La vraie Église est palmarienne. Cela aussi est indiqué dans l'Apocalypse, pour tous ceux qui souhaitent le voir, où il est écrit que deux ailes d'un grand aigle ont été données à la femme pour qu'elle puisse s'envoler dans le désert, à l'endroit que Dieu lui avait préparé, et où elle est gardée pendant un temps, deux temps et un demi-temps de la présence du serpent infernal. Ainsi est prophétisé le transfert de la cathèdre de l'église de Rome au palmar de Troïa. Ceux qui rejettent ces signes méritent le même reproche que le Christ a adressé aux disciples d'Emmaüs, ô insensés et lents de cœur pour croire tout ce que les prophètes ont dit. Et pour plus de signes l'Apocalypse ajoute, puis le serpent infernal est allé à la poursuite de la femme en vomissant des fleuves d'infamie, de persécution, de confusion, de séduction et d'autres immondices de sa bouche, afin de la tirer dans le courant et de la faire cesser. Le dragon, voyant qu'il était incapable de mettre fin à la femme, pour se venger d'elle, s'en est allé faire la guerre à ses descendants, à savoir ceux qui observent les commandements de Dieu et témoignent fidèlement de Jésus-Christ. Dans ce passage est symbolisée l'Église palmarienne terriblement persécutée par Satan et ses armées, surtout par la franc-maçonnerie qui remplit les médias de communication de leurs calomnies et de leurs mensonges, ainsi que des fables qu'ils inventent. C'est le signe indéniable que Dieu donne en ces temps apocalyptiques pour montrer où se trouve la vraie Église, annoncée dans la Sainte Bible. Le diable lui-même s'est chargé d'indiquer où elle se trouve, réalisant ainsi la prophétie apocalyptique. Le monde entier est témoin des fleuves inépuisables de scandales calomnieux que le serpent infernal vomit contre la Sainte Église palmarienne par la bouche de ses sbires. Puisque cela est précisément le signe indubitable que le Christ a donné dans l'Apocalypse. La très sainte Vierge Marie, en tant que mère, pastourelle et doctoresse de l'Église, piétine de manière invincible la tête du serpent infernal. Le serpent, voyant que l'Église est en elle-même absolument indestructible, s'est vengé en luttant farouchement contre ses enfants, les fidèles. L'établissement de l'Église palmarienne a marqué le début de l'Empire sacré hispano-palmarien, où règnent des sacrés cœurs de Jésus et de Marie, même si l'Empire et le règne sont actuellement réduits au lieu sacré du palmar de Troïa ou désert apocalyptique mystique. Rappelons-nous que la Sainte Église de Dieu a toujours été persécutée au cours des siècles. Puisque le diable sait que son règne impie dans ce monde touche à sa fin, il lance ses attaques de plus en plus furieusement contre la barque de Pierre, l'Église une, sainte, catholique, apostolique et palmarienne. Mais si elle est invincible et indestructible en elle-même, nous, à bord, ne le sommes pas, car nous pourrions facilement succomber aux attaques infernales si nous ne restions pas vigilants et éveillés. La ruse du diable et ses plans de perdition sont inconcevables et inimaginables pour l'homme dans beaucoup de ses nuances. Le malin connaît nos points faibles, donc il sait quand, comment et où il peut nous tenter pour qu'il soit plus facile de nous vaincre. Pour l'accomplir, il compte sur d'innombrables collaborateurs dans ce monde, outre tous ceux dans l'enfer. Satan, avec l'autorisation divine, accélère ses derniers préparatifs pour sa manifestation publique sur la terre en tant qu'antéchrist personne, c'est-à-dire en tant qu'homme diable, pour se faire passer comme le Christ même, pour séduire les nations et donner sa dernière bataille définitive contre la Sainte Église. L'Église a pour mission d'enseigner la moralité au monde. Si quelqu'un désapprouve et proteste qu'il a le droit de s'habiller comme il veut, il montre qu'il s'est laissé tromper par la franc-maçonnerie du Vatican, car la décence vestimentaire est une loi imposée par Dieu, enseignée à nouveau par les apôtres et enseignée par l'Église pendant des siècles jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement abandonnée par l'Église romaine apostat, qui n'est plus sainte. De même, quelqu'un qui dit que les autres religions ont le droit de croire et d'enseigner tout ce qui leur semble approprié, s'oppose au commandement du Christ aux apôtres, « Allez donc, enseignez à tous les peuples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Celui qui croira, sera baptisé et pratiquera sera sauvé, et celui qui ne le fera pas sera condamné. » Les antipapes de l'Église apostate romaine proclament faussement que toutes les religions sont bonnes et inspirées par Dieu. Est-ce que personne ne veut ouvrir les yeux et voir la vérité? Dieu le permet ainsi, exactement comme dans l'Évangile pour que, voyant ils ne voient pas et entendant ils n'entendent pas ni comprennent pas. Pour ceux qui persistent dans leur mauvais comportement, Jésus, qui respecte la liberté de l'homme, les laisse dans leurs propres ténèbres, permettant aux démons d'endurcir encore plus leur cœur, de sorte qu'ils n'auront guère assez de lumière pour se sauver. Comme la très sainte Vierge Marie a averti au palmar, prochainement, un antipape régnera, la confusion sera terrible. Le vrai pape ne manquera pas, mais il faudra beaucoup de prières pour voir la lumière. La très sainte Vierge dans ses apparitions nous a montré comment prier afin de posséder cette lumière. Elle a établi le Saint Chapelet pénitentiel, qui consiste en 5 mystères, dans chaque mystère, nous récitons 10 Notre Père complet, à savoir un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père et un Je vous salue, Marie, toute pure, sur chaque grain. Il est nécessaire de rétablir le Saint Chapelet pénitentiel des Notre Père dans tous les cénacles, sinon, la lumière ne viendra pas et vous vivrez dans les ténèbres. Il est essentiel de prier le Saint-Chapelet pénitentiel, même si vous êtes deux personnes seules. La chose la plus importante est la prière, et pas le nombre de personnes. Avant tout, une grande fermeté dans la prière du Saint-Chapelet pénitentiel. N'oubliez pas. Mais ceux qui perdent la lumière la perdront par leur propre volonté. Parce que je vous exhorte à suivre le chemin de la rectitude. Faites plaisir au Père Céleste avec le chapelet pénitentiel. Faites attention. Prenez soin. Parce que Satan se lancera dans une bataille acharnée contre le chapelet pénitentiel. Mes petits enfants, je ne parlerai que peu désormais, car l'heure vient où je me cacherai dans le désert. Voici, mes petits enfants, le moment arrive, dans le prochain pontificat, où il y aura deux papes, le vrai et l'antipape. Ce sera une période d'obscurité et de tourments sans précédent dans l'histoire de l'Église. La lecture, la culture, la science et l'art ne serviront à rien pour trouver la lumière. Seulement la prière, la pénitence et l'humilité. Ceux qui inclinent leur tête devant Dieu, prient et demandent de la lumière l'obtiendront. Voyez comment, sur le calvaire, alors que Jésus était cloué sur la croix, les chefs des prêtres et les pharisiens lui ont dit que s'il descendait de la croix, ils croiraient en lui. Pourtant, ayant le pouvoir de le faire, il ne l'a pas fait. Parce que personne ne peut obliger Dieu à donner des preuves. Mais ceux qui demandent humblement les recevront. 1973. L'Église romaine, par son apostasie, a cessé d'être la véritable Église du Christ le 6 août 1978, à la mort du pape Saint Paul VI et à l'élévation au pontificat de son successeur légitime, le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand. Car ce jour-là, le Saint-Esprit s'est séparé de tous les membres de cette Église, étant donné que le Paraclet n'est l'âme que de la vraie Église, qui est l'une, sainte, catholique, apostolique et palmarienne. Néanmoins, l'Église romaine, comme les autres sectes apostates, conservait certains pouvoirs jusqu'à leur retrait complet par le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand en vertu de sa constitution apostolique du 30 juillet 1982. Par lequel, à partir de ce moment-là, seuls les ordres sacerdotaux et les consécrations épiscopales de même que l'administration des sacrements, et d'autres actes propres au ministère sacerdotal de la vraie Église qui est une, sainte, catholique, apostolique et palmarienne, conservent leur validité. Le 6 août 1978, après la mort du pape Saint Paul VI, le Saint-Esprit a quitté le Vatican pour El Palmar de Troya avec l'élection du pape Saint Grégoire XVII. L'immortel pape Saint Grégoire XVII, de Gloria Olivae, a légué à l'Église, comme héritage spirituel, le trésor inestimable de sa resplendissante doctrine et de sa discipline irréprochable. Ses nombreux documents papaux, ses divers traités théologiques et moraux, ainsi que la Sainte Bible palmarienne, constituent un témoignage irréfutable de son travail doctrinal prolifique. Au cours du glorieux pontificat du pape Saint Grégoire XVII, ont été célébrés les deux grands, saints et dogmatiques conciles palmariens, qui ont considérablement enrichi le trésor doctrinal de l'Église. Ensemble, ils ont duré 20 ans et ont été le premier travail conciliaire complet dans l'histoire, car ils englobaient tout le magistère ecclésiastique avec de grands progrès théologiques, réalisant ainsi les nombreuses prophéties catholiques sur ces conciles incomparables. Ils ont produit la première Bible dogmatique, éliminant les nombreuses adultérations existantes. La première théologie morale dogmatique, le traité sur la messe et ainsi de suite. L'antipape Jean-Paul II, cependant, a été le plus grand propagateur d'hérésies et d'autres déviations de ces derniers temps où nous vivons. Jean-Paul II, avec la plus grande impertinence, se faisant passer pour le pape et le chef de la véritable Église, a sournoisement proclamé que le salut éternel était le patrimoine de toute religion existante et sans le moindre scrupule, il s'est servi du Christ pour dissimuler ses erreurs. Par exemple, selon l'enseignement de l'antipape Jean-Paul II, peuvent être sauvés. Le Romain par ses croyances hérétiques, les orthodoxes, faussement appelés ainsi parce qu'ils sont hétérodoxes, selon les hérésies de leurs schismes respectifs, le bouddhiste selon les enseignements du Bouddha, le musulman selon le Coran. Les protestants selon les hérésies luthériennes, calvinistes, anglicanes, etc., les juifs selon le Talmud, etc. En outre, l'antipape Jean-Paul II a proclamé partout l'œcuménisme maudit promulgué par le désastreux conciliabule Vatican II. Il a rencontré la majorité des chefs religieux du monde, se solidarisant avec les enseignements des différentes confessions religieuses et, en ce faisant, il s'est tacitement proclamé le chef de toutes les sectes existantes. Mais dans sa duplicité raffinée, il s'est présenté comme s'il était le chef souverain de la véritable Église du Christ, afin qu'elle soit considérée comme n'importe quelle autre secte, et de cette manière discréditer l'Église aux yeux du monde, ainsi que l'autorité et magistère du vrai vicaire du Christ, à cette époque le souverain pontife palmarien, le pape Saint Grégoire XVII, Le Très Grand, de Gloria Olivae. Le sinistre antipape Jean-Paul II, tout en cherchant l'union des églises et s'adressant à de nombreux publics, a permis à ces prosélytes de l'Église romaine de vivre dans le plus grand chaos moral jusqu'à présent. L'antipape Jean-Paul II était le principal défenseur des courants politiques aberrants d'aujourd'hui, tout à fait opposé au magistère infaillible de l'Église, car, en agissant avec une piété feinte, il a entretenu de bonnes relations, en parfait accord idéologique, avec les principaux dirigeants politiques, embrassant même paternellement certains d'entre eux, et ainsi, il a fait comprendre au monde qu'il n'y avait aucun conflit entre les systèmes politiques actuels et les enseignements infaillibles de l'Église, alors que les deux s'opposent complètement. Car dans ces différents régimes politiques, de nombreuses lois sont contraires à la loi sacrée de Dieu et aux enseignements de la vraie Église du Christ. Jean-Paul II était un grand défenseur de la démocratie politique, opposé à la loi divine, car le pouvoir temporel ne réside pas dans le peuple, mais dans la personne dotée par Dieu de l'autorité pour exercer ce pouvoir. L'antipape Jean-Paul II était le plus grand propagateur de l'actuel relativisme religieux. Devant de grandes masses de public, il leur a fait comprendre, de manière sournoise, que la religion catholique authentique n'était pas la seule vraie, et pouvait donc être remplacée par quelconque autre religion existante. Et que par conséquent, le salut éternel est possible dans n'importe quelle des fausses religions. Jean-Paul II, agissant hypocritement en tant que porteur de la vraie foi catholique, était son principal démolisseur et pour cela il avait à plusieurs reprises sur sa bouche les très saints noms du Christ et de Marie, afin de tromper plus facilement le monde. Dans les nombreux théâtres que Jean-Paul II a montés partout dans le monde, il savait, comme un grand acteur, tromper les masses. Dans la prophétie de saint Malachie sur les papes, la devise de la Borsolis correspondant à l'antipape Jean-Paul II signifie « éclipse du soleil ». En effet, Jean-Paul II a osé s'interposer entre le soleil, à savoir sa sainteté le pape Grégoire XVII, et l'humanité, donnant lieu à la plus grande éclipse spirituelle connue jusqu'à présent. L'antipape Jean-Paul II, chef visible de la franc-maçonnerie, est au fond du feu éternel de l'enfer. Son successeur aujourd'hui, un autre hérétique consommé, est l'actuel chef visible de la franc-maçonnerie du Vatican et un fidèle disciple de son père néfaste dans l'hérésie, Jean-Paul II, bien qu'il puisse dans de certains domaines agir en contradiction apparente avec ses prédécesseurs. Le pape Pierre III, de Gloria Ecclesiae, est le successeur légitime de la cathèdre de Saint-Pierre, avec siège apostolique au Palmar de Troya. Seulement une église peut être la véritable église de Jésus-Christ, puisqu'il n'a fondé qu'une seule église. Cette église du Christ est l'église catholique palmarienne. La véritable église de Jésus-Christ est celle dans laquelle se trouve le successeur légitime de Pierre, car c'est à Pierre que Jésus a remis les clés du ciel et c'est lui qui l'a placé comme pasteur suprême de son troupeau. Saint-Pierre a été le premier pape et on peut voir la chaîne des successeurs légitimes de Pierre se prolonger sans interruption jusqu'à l'actuel chef suprême de l'Église catholique, le pape palmarien. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est l'Église du pape, là où est Pierre, là est l'Église. Par conséquent, aucune Église ou personne séparée du pape, que ce soit par hérésie ou par rébellion, ne pratique la vraie religion de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a fondé qu'une seule Église et lui a imposé quatre caractères qui lui permettent d'être reconnu avec une assurance totale. La vraie Église de Jésus-Christ doit être 1. Dans son chef, dans sa doctrine, dans sa morale, dans ses moyens de salut, sainte, dans ses enseignements, dans ses lois, dans ses pratiques, dans ses membres, dans ses œuvres, catholique, répandue dans toutes les régions du monde, apostolique, gouvernée par les successeurs légitimes des apôtres, les seuls chargés par le divin maître de prêcher l'évangile dans le monde entier. L'Église fondée par Jésus-Christ est une, sainte, catholique et apostolique. Ce sont les quatre notes distinctives de la vraie Église qui, clairement indiquées dans l'Évangile et insérées dans le credo des apôtres et dans celui de Nicée, indiquent avec exactitude l'Église catholique palmarienne et seulement l'Église catholique palmarienne. L'Église palmarienne est une dans la foi, car la vérité révélée par Dieu est la même pour tous. Elle est une dans le gouvernement, car il y a un seul chef visible, qui est le pape, auquel les pasteurs et les fidèles obéissent. Une seule foi, une seule loi et un seul culte. Ces fidèles, dispersés dans toutes les régions du monde, récitent le même credo et les mêmes prières, observent les mêmes préceptes et participent aux mêmes sacrements et aux mêmes cultes divins. L'Église romaine maçonnique, en revanche, n'est pas une, car elle embrasse toutes les croyances, son objectif étant de jouir de la fraternité avec toutes les religions. La seule à être exclue est la vraie, la palmarienne, incompatible avec le reste, car la vérité n'a aucun rapport avec l'erreur. L'Église apostate romaine a cessé d'être une dans son culte par l'introduction des langues vernaculaires et elle n'est plus une ni dans sa morale ni dans sa doctrine, car elle prêche et tolère toutes sortes de tendances. L'Église palmarienne est sainte, elle possède une doctrine sainte et sanctifiante, l'Évangile dans toute son intégrité et les moyens de sanctification vraiment efficaces, que sont les sacrements. Elle ne cesse pas d'engendrer des saints, qui sont un signe sûr pour reconnaître la sainteté de l'Église, car il est évident que ceux qui se distinguent par leur sainteté sont animés et dirigés par l'Esprit de Dieu. Le chemin qu'ils suivent ne peut pas être le chemin de l'erreur. L'Église palmarienne est sainte, parce que son fondateur est saint, sa doctrine est sainte, ses objectifs sont saints, et beaucoup de ses membres sont saints. Elle est sainte dans ses enseignements, dans ses lois et dans ses pratiques pieuses. L'Église romaine, au contraire, a cessé d'être sainte dans tous ses aspects. Elle a aboli le saint sacrifice de la messe, source de toute sainteté, pour en faire un banquet. Elle a abandonné la vie de prière chez ses membres, à savoir les chapelets, les neuvaines et autres dévotions publiques d'autrefois. Elle a laissé entrer les hérésies, le rationalisme, le libéralisme, le darwinisme, montrant ainsi son rejet de la doctrine et de la morale sainte et multiséculaire de l'Église. Elle a permis à ses membres d'aller au cinéma et de regarder la télévision où sont projetés des films qui sont effrontément contre Dieu, contre la foi, contre la doctrine, et contre la morale catholique. Elle tolère des expositions totalement injurieuses et blasphématoires à l'égard de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, comme par exemple le film maudit, blasphématoire, sacrilège et hérétique connu sous le nom de Jésus-Christ Superstar. Dans ce film, l'œuvre de Satan lui-même, Jésus est ridiculisé, un Jésus est présenté avec des tendances socialistes et révolutionnaires, et ils l'ont même représenté comme un homme de vice. De nombreux prêtres et évêques romains ont loué ce film satanique. Tout évêque qui permet à d'autres d'enseigner l'hérésie, ou ce qui est pire, l'encourage en l'exaltant, tombe dans l'hérésie. Il s'excommunie donc lui-même de l'Église et cesse d'être un pasteur du troupeau. Un évêque est obligé de condamner l'hérésie et de veiller sur les brebis et de veiller sur la foi authentique, et tout évêque qui permet l'enseignement de l'hérésie devient automatiquement un hérétique. En autorisant et en fomentant de telles infractions contre Dieu, la hiérarchie de l'Église romaine a montré qu'elle n'est plus une, sainte, catholique et apostolique. Lorsqu'un imposteur cherche à séduire un peuple, il prend soin de n'imposer aucun sacrifice à la raison ou aux passions. Il proclame la liberté et l'indépendance. Il fomente tous les mauvais instincts du cœur. Il ouvre un large chemin à l'orgueil, à l'envie et à la volupté. C'est le secret du succès honteux de Mahomet, de Luther, de Calvin et de tous les inventeurs de fausses religions humaines. C'est précisément ce qu'ont fait les antipapes et autres prélats qui ont dirigé l'Église apostate après la mort de Saint Paul VI. En revanche, la Sainte Église palmarienne toujours se distingue par la perpétuation de la sainte tradition de l'Église et de nombreuses pratiques qui conduisent à la sainteté. Utilisation de l'habit sacré, la soutane, la sainte messe en latin sur l'autel et non sur une table luthérienne, la sainte communion à genoux et sur la langue, et qui ne peut être touchée que par le prêtre. La procession et la bénédiction tous les jours avec le très saint sacrement, la plus grande décence pour entrer dans la maison de Dieu, le sacrement de la confession, individuellement, le culte solennel donné aux images sacrées. L'utilisation du saint scapulaire, des médailles et des chapelets, et le récital du saint chapelet pénitentiel. De telles pratiques sont nécessaires car le chrétien doit mener une vie conforme à ses convictions et croyances religieuses. L'Église palmarienne est catholique, comme elle est universelle, car elle embrasse toutes les vérités et s'adresse à tous les peuples. Actuellement, en raison de la grande apostasie, la catholicité de l'Église n'est pas évidente dans le nombre de ses membres. Elle est catholique ou universelle aussi dans le temps, depuis le Christ, elle persévère à travers les siècles. L'Église romaine, en revanche, a cessé d'être catholique et est devenue une nouvelle Église maçonnique inspirée par le luthéranisme, bien qu'elle puisse sarcastiquement être qualifiée de catholique ou universelle dans le sens où elle englobe toutes les erreurs. Enfin, l'Église palmarienne est apostolique pour son origine et pour sa doctrine. Avec le credo des apôtres, elle a conservé tous les enseignements et traditions apostoliques, et elle est apostolique pour la succession ininterrompue de ses pontifes. Les papes remontent à Saint Pierre Ier et les évêques sont les successeurs légitimes des apôtres. L'apostolicité est la principale caractéristique de l'Église de Jésus-Christ. L'Église préserve et enseigne la doctrine des apôtres. L'Église palmarienne est apostolique par son origine, par ses enseignements et par la succession apostolique de ses évêques qui vient des apôtres. L'Église romaine, en revanche, a cessé d'être apostolique pour avoir rejeté la doctrine, les enseignements et les traditions des apôtres. Elle a rejeté non seulement le mandat apostolique selon lequel les femmes doivent se couvrir la tête dans l'Église, mais également le mandat apostolique plus grave de fuir les hérétiques, que l'Église a fidèlement conservé pendant des siècles. Rome ne prêche plus la doctrine des apôtres et tombe donc sous l'anathème de l'apôtre Saint Paul, Si l'un de nous, apôtre du Christ, y compris un ange du ciel, vous prêche un évangile différent de celui que nous vous avons déjà enseigné, qu'il soit anathème. En outre, l'Église romaine ne peut plus se dire apostolique car elle a perdu la garantie de succession apostolique de ses évêques, puisque cette succession a été interrompue par les francs-maçons et les communistes infiltrés dans sa hiérarchie pendant de nombreuses années, qui n'étaient pas de vrais prêtres ni de vrais évêques, plutôt des antiprêtres et des anti-évêques, et donc incapables de transmettre la succession apostolique. C'est pourquoi beaucoup d'ordinations sacerdotales et de consécrations épiscopales de l'Église romaine n'étaient pas valides et ces ministres ne peuvent donc pas affirmer avec certitude qu'ils ont été valablement ordonnés. De plus, à partir de 1982, aucun sacrement dans l'Église romaine n'est valable. La vraie Église est palmarienne parce que son siège est maintenant au Palmar de Troya, Séville, Espagne depuis que la cathèdre de Saint-Pierre a été transférée de Rome à la mort du dernier pape à Rome, Saint Paul VI, en août 1978. De plus, la véritable Église du Christ est indéfectible, invincible et indestructible, par la promesse même de son divin fondateur, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. L'Église palmarienne est donc la seule véritable Église de Jésus-Christ, car le Christ n'a fondé qu'une seule Église, comme il n'a enseigné qu'une seule doctrine, et il a désigné un seul chef. Aucune société religieuse séparée d'elle ne possède l'unité de doctrine et de gouvernement, aucune ne produit des saints. Aucune ne remonte à Jésus-Christ. Et aucune n'a pour supérieur légitime les successeurs des apôtres. Aucune de ces sociétés religieuses n'a en son sein le successeur légitime de Pierre, chef et centre de toute l'Église, bien que l'Église romaine apostate prétende faussement l'avoir. Par conséquent, ils ne sont pas l'Église de Jésus-Christ. La religion chrétienne ne se trouve que dans l'Église catholique palmarienne. Le Christ n'a pas donné le pouvoir d'enseigner la religion, de conférer la grâce et de guider les hommes vers le bonheur éternel, sauf à son Église. Par conséquent, toute personne qui reste volontairement en dehors de l'Église catholique palmarienne, ne pratique pas la religion de Jésus-Christ, mais désobéit à Jésus-Christ. L'Église catholique palmarienne est la véritable Église de Jésus-Christ et elle est donc divine. C'est l'Église du pape, successeur de Saint-Pierre, la seule Église qui soit une, sainte catholique apostolique et palmarienne. Depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à peu de temps avant le conciliabule Vatican II, lorsque le travail de démolition du progressisme a commencé à se manifester, ces quatre signes étaient évidents, l'Église était une, sainte, catholique et apostolique. Mais maintenant, depuis le transfert du siège apostolique au Palmar de Troya en 1978, ces signes brillent par leur absence à Rome, car l'Église romaine n'affiche que sa laideur et son apostasie, bien qu'elle tente de se dissimuler sous une apparence de sainteté. Les signes authentiques de véracité sont le patrimoine exclusif de la Sainte Église catholique palmarienne. En plus, les prélats eux-mêmes de l'Église romaine témoignent du fait qu'ils ne sont plus des ministres légitimes de Dieu, car ils ont cessé de remplir la mission et d'exercer l'autorité sacrée que le Seigneur a confiée à ses apôtres. Jésus-Christ a donné à son Église une triple autorité. L'autorité doctrinale pour enseigner les vérités révélées, l'autorité pastorale pour gouverner les hommes et les conduire au ciel, l'autorité sacerdotale pour les purifier de leurs péchés, les sanctifier et les rendre dignes de la vision béatifique de Dieu. Rome n'enseigne pas la doctrine avec autorité, car elle estime les hérésies et les autres religions. Elle n'exerce pas d'autorité pastorale car, au lieu de conduire l'humanité au ciel, elle permet que les commandements de Dieu soient foulés aux pieds, et elle n'exerce plus l'autorité sacerdotale depuis qu'elle a aboli le saint sacrifice et l'a transformé en un banquet. En dehors de l'Église, l'enseignement de la vraie doctrine n'est pas possible, car c'est seulement dans l'Église que le dépôt sacré de la révélation divine est infusé dans l'âme. En dehors de l'Église, il n'est pas possible de paître les âmes, puisque ces pasteurs sont des ennemis du Christ et de Marie. En dehors de l'Église, le ministère sacerdotal n'est pas possible, car leurs sacrements et leurs messes sont nuls, car ils ne peuvent pas posséder l'habitabilité du Christ dans le cœur. Dieu a établi l'Église pour éclairer les hommes, les rendre meilleurs, même à la perfection, et les conduire au ciel. De sorte que la vraie Église doit être sainte. Et comme déjà dit, l'Église palmarienne est sainte dans sa doctrine, car elle prescrit toutes les vertus et condamne tous les vices. Elle est sainte dans ses sacrements, qui produisent la sainteté et donnent la force divine de pratiquer les plus belles vertus. Le véritable catholique palmarien possède ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La peur d'offenser Dieu, le repentir de ses fautes, qui sont pardonnées dans le sacrement de la confession, et aussi l'amour de la prière et de la communication avec Dieu. Le prêtre catholique palmarien est très exalté, il est l'exact opposé des ministres des anti-églises, à savoir le curé romain, le pasteur protestant, le pope orthodoxe, le rabbin juif, etc., car il est le seul à offrir le saint sacrifice. Les religieux palmariens pratiquent la perfection évangélique par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obédience, comme cela a toujours été pratiqué traditionnellement dans l'Église. L'unité est le sceau des œuvres de Dieu et la vraie religion doit unir les hommes entre eux pour les unir à Dieu. Elle doit unir les esprits dans la vérité et les cœurs dans la charité. Elle doit posséder une force unitive faisant de toute l'Église une seule société. Seule l'Église catholique palmarienne présente l'unité parfaite des esprits par la profession d'une seule foi, l'unité des volontés par la soumission de tous les fidèles au même souverain suprême et l'unité des cœurs dans une seule espérance et un seul amour. En ce qui concerne la stabilité immuable de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ a dit un jour à Simon-Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Étrange promesse. Un homme qui n'a nulle part où reposer sa tête choisit un pécheur pauvre comme fondateur et souverain d'un vaste, impérissable empire. Pierre a établi un empire qui existe depuis 20 siècles, au milieu de toutes les révolutions de l'orbe et malgré les efforts concertés du monde et de l'enfer pour le détruire. L'histoire en témoigne, les empereurs les plus puissants l'ont combattu de toutes leurs forces et ont été vaincus. Ils ont succombé et le successeur de Pierre est resté debout. Il est au palmar de Troya, il est là avec sa croix, et il dicte les lois aux quelques catholiques fidèles qui persévèrent dans ce désert. Mais quand le moment viendra, sa voix résonnera dans tout l'univers. Jésus-Christ a fait de son Église le dépositaire et le gardien de ses enseignements, de ses pouvoirs et de ses grâces. En conséquence, en dehors de l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. De plus, l'Église possède trois propriétés essentielles, la visibilité, la perpétuité et l'infaillibilité. La visibilité signifie que l'Église peut être vue et reconnue par les hommes comme la société religieuse fondée par Jésus-Christ. Si elle était invisible, les hommes ne pourraient recevoir d'elle ni la doctrine de Jésus-Christ, ni ses lois ni sa grâce. Ils n'auraient donc aucune obligation d'y appartenir, puisqu'ils ne pourraient pas la voir ni l'identifier. La perpétuité ou l'indéfectibilité signifie que l'Église doit durer sans interruption jusqu'à la fin du monde et conserver sans changement sa doctrine, sa morale et son culte. Jésus-Christ a institué son Église pour tous les hommes et pour tous les temps. L'infaillibilité est le privilège accordé à l'Église par lequel elle ne peut ni tromper ni être trompée lorsqu'elle enseigne la doctrine de Jésus-Christ. C'est l'assistance spéciale du Saint-Esprit qui empêche que l'Église tombe dans l'erreur. La seule personne infaillible est celle qui, au nom de l'Église, a la mission et le droit de déclarer la vérité révélée par Dieu et de condamner l'erreur contraire. C'est-à-dire le pape. C'est à Pierre que Jésus-Christ a conféré l'autorité infaillible. En résumé, rappelons-nous qu'au XVIe siècle de nombreuses nations ont apostasié de la foi à cause du protestantisme. Au XXe siècle, l'apostasie a été encore plus grande, car l'Église romaine a permis la dégénérescence morale, l'hérésie et l'infiltration des ennemis déguisés. Le pape Saint Paul VI était prisonnier au Vatican, soumis à la drogue et rendu impuissant par ses ennemis. Lorsque, à sa mort, le 6 août 1978, le Vatican est tombé entièrement entre les mains de la franc-maçonnerie, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli alors fidèlement sa promesse solennelle d'assister son Église et de ne pas laisser les portes de l'enfer prévaloir contre elle. Le Christ lui-même a choisi le successeur de Saint Paul VI, le pape Saint Grégoire XVII, un pape qui avait appris la saine doctrine au même séminaire que l'apôtre Saint Pierre car il avait appris directement du Seigneur et de sa très sainte mère dans leurs nombreuses apparitions et messages. En accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse, le Saint-Siège a ensuite été transféré de Rome au lieu préparé par Dieu dans le désert du palmar de Troya. Le Seigneur remplit sa promesse d'être avec son Église. Il est admirable de voir comment le Seigneur a accompli sa promesse d'être avec son Église jusqu'à la consommation des siècles et que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été capable de se libérer des attaques de ses ennemis. La Sainte Famille a fui en Égypte pour échapper au roi Hérode, et quand ils allaient le jeter au précipice à Nazareth, il a passé au milieu de ses ennemis et a suivi son chemin, et même quand il était saisi la nuit de sa passion, le Seigneur a jeté ses ennemis à terre pour montrer qu'il pouvait se libérer d'eux. Il sait également comment intervenir pour sauver son Église, comme lorsqu'il a libéré miraculeusement le premier pape, Saint-Pierre, de prison. Au palmar, notre Seigneur et sa très sainte mère ont préparé un ordre religieux, un collège épiscopal et une église. Et le jour même de la mort du dernier pape du Vatican, Saint Paul VI, le Seigneur lui-même a choisi son successeur, le nouveau pape, et a transféré ainsi le Saint-Siège au palmar de Troya. Par cela, il a accompli plusieurs fins. Il a délivré la Sainte Église des griffes de ses ennemis, il l'a purifiée et embellie pour qu'elle brille ainsi comme une oasis dans le désert, comme le groupe qui honore Dieu et accomplit sa loi sacrée au milieu d'un monde dégénéré, et il a libéré les vrais catholiques des faux pasteurs pervers qui, tels des guides aveugles, les conduisaient par le mauvais chemin. Par ce transfert, il a réprimandé les mauvais catholiques, ceux qui avaient abandonné la sainte moralité et la vie de prière propre aux disciples du Christ, et qui se retrouvaient sans sacrement et séparés du bon pasteur, plongés dans les ténèbres qui règnent aujourd'hui partout. À la mort du pape Saint Paul VI, lorsque le Christ a élu Saint Grégoire XVII comme le nouveau pape, un conclave valide n'était plus possible à Rome, même s'il y avait des cardinaux authentiques, parce que Grégoire XVII était alors pape et aucun autre pape n'était possible. Certains diront que le Christ ne peut pas intervenir et choisir personnellement un pape, car le pape doit être choisi dans un conclave au Vatican. C'est faux, car serait irrévérencieux de dire que Dieu, Créateur et Seigneur de tous, n'a pas le droit d'intervenir dans une telle affaire. De plus, le Christ lui-même a promis d'être avec son Église tous les jours jusqu'à la consommation des siècles et il a assuré qu'il ne laisserait pas les portes de l'enfer prévaloir contre elle. S'il est quelque peu surprenant que le Christ ait dû intervenir et choisir le pape, il serait beaucoup plus surprenant que le Christ n'ait pas tenu sa promesse et qu'il ait permis la destruction de son Église, ce serait tout à fait impossible. Il existe une grande similitude entre l'apostasie du peuple juif il y a 2000 ans et l'apostasie de Rome de nos jours. Le peuple juif, autrefois le peuple élu de Dieu, a rejeté le Christ et, guidé par une hiérarchie perverse, l'a condamné à mort. Le Seigneur les avait déjà prévenus. En conséquence, je vous dis que la grâce d'appartenir au royaume de Dieu vous sera enlevée et donnée à un peuple qui en donnera le fruit, se référant aux gentils, qui accepteraient son évangile. Saint Paul l'explique. Malheureusement, lorsque le Christ est venu prêcher l'évangile, la foi en Christ était voilée à la plus grande partie du peuple juif, à cause de son obstination, et pour cela, il respecte toujours la loi mosaïque, car le voile de cette loi ne peut être levé qu'en acceptant la loi de l'évangile. Et même aujourd'hui, quand ils lisent Moïse, le voile est placé sur leur cœur, les empêchant de voir Jésus-Christ dans ce qu'ils lisent. Cependant, quand ils seront convertis au Christ un jour, le voile leur sera enlevé. Le peuple juif et sa hiérarchie ont cessé d'appartenir au royaume de Dieu et le Christ a choisi un humble pécheur pour être le chef de son Église. De même à Rome, sous les auspices d'une hiérarchie perverse, tout ce que nous venons de voir s'est produit et les membres perfides de l'Église romaine ont été frappés du même anathème que les Juifs perfides, réalisant à nouveau les paroles du psalmiste, et leurs yeux seront obscurcis de telle manière qu'en voyant la vérité, ils ne la reconnaîtront pas. La prophétie d'Isaïe, que le Christ cite dans l'Évangile, s'applique aux deux cas. Vous allez entendre et vous ne comprendrez pas les mystères, vous verrez et néanmoins vous serez aveugle à la lumière de la vérité. Parce que le cœur de ce peuple est endurci, et Satan a encore bouché ses oreilles, fermé ses yeux et obscurci son esprit, afin qu'ils ne se convertissent pas et ne reçoivent le salut de moi. Tandis qu'ils adoptaient l'attitude des enfants de Satan et rejetaient les enseignements divins, évitant ainsi l'engagement de se convertir et refusant de laisser de côté leur orgueil et de renoncer à leur immoralité, le divin maître, qui respecte leur liberté, les abandonne à leurs propres ténèbres, et permet aux malins d'endurcir encore plus leur cœur. Pourtant, le Dieu miséricordieux leur laisse une porte ouverte pour venir dans le troupeau, il accorde la lumière à ceux qui invoquent avec humilité et insistance la très sainte Vierge Marie. L'Église ne restera pas pour toujours dans le désert, mais pendant un temps, deux temps et un demi-temps, comme l'affirme l'Apocalypse. La troisième guerre mondiale sera le châtiment de Dieu pour la grande apostasie générale de l'Église romaine, caractérisée par une consternation si universelle qu'il semblera que la fin du monde soit arrivée. Cela produira un profond sentiment de culpabilité chez la majorité des hommes, qui reconnaîtront le juste châtiment de Dieu pour leurs méfaits graves. En attendant, il est bon de tenir compte des avertissements du Christ au Palmar, « Préparez-vous, mes enfants. Soyez unis sous le manteau de la très sainte Vierge Marie, car l'antipape confondra terriblement l'Église. Ce n'est que par la prière et l'invocation constante de celle qui est la médiatrice universelle de toutes les grâces et de tous les privilèges que vous pourrez suivre le vrai pape. 1971. Les vrais papes de ces dernières temps sont Pape Saint Jean XXIII. Pastor et Nota. 28 octobre 1958 au 3, 6 1963. Il était l'avant-dernier pape avec siège à Rome. Ce pape glorieux, en raison de sa gentillesse et de sa simplicité, a été exploité par les ennemis de l'Église. Le pape Saint Jean XXIII a été contraint et manipulé par des francs-maçons. Le Concile Vatican II, en ce qui concerne le développement et les conclusions convenues, n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais plutôt du diable. Le pape Saint Paul VI. Flos Florum. 19 juin 1963 au 6, 8 1978. Dernier vrai pape avec siège à Rome. La vie du pape Saint Paul VI était exemplaire et vertueuse. Saint Paul VI, connaissant les apparitions et les messages célestes, n'a jamais condamné l'œuvre du Palmar de Troya, ni son voyant principal, Clemente Dominguez y Gomez. Pendant une grande partie de son pontificat, ce glorieux pape était drogué par des membres pervers de la curie romaine dans le but d'affaiblir sa volonté et de le mettre à leur merci. Après la mort du pape Saint Paul VI, l'Église romaine a consommé son apostasie générale et a cessé d'être la véritable Église du Christ. En conséquence, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, François et leurs successeurs sont des antipapes. Le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand. De Gloria Olivae. 6, 8 1978 au 21 mars 2005. Le principal voyant stigmatisé du lieu sacré du Lentisque du Palmar de Troya, Clemente Dominguez y Gomez, plus tard l'évêque Père Ferdinand dans l'ordre, est né à Séville, en Espagne. Le 6 août 1978, alors que l'évêque Père Ferdinand était à Santa Fe de Bogota, en Colombie, le pape Saint Paul VI est mort. Depuis ce jour-là, par la volonté de Dieu, le Père Ferdinand a occupé la cathèdre de Saint-Pierre sous le nom de Grégoire XVII, de Gloria Olivae. Accompagné des apôtres, Saint-Pierre et Saint-Paul, notre Seigneur est apparu et il a placé la tiare sacrée sur la tête du nouveau pape qui était ainsi couronné d'une manière mystérieuse et profonde. Entre autres choses, le Seigneur lui a dit, « Le grand pontificat de la gloire des olives commence. Seuls les simples et les humbles de cœur reconnaîtront celui qui est le véritable pape, le pape Grégoire XVII. » Il lui a également annoncé qu'un antipape émergerait du conclave de Rome. Le 9 août de la même année, le vicaire du Christ, Saint Grégoire XVII, est arrivé de la Colombie au Palmar de Troya. De cette manière mystérieuse, la cathèdre de Saint-Pierre était transférée de Rome au Palmar de Troya, qui est devenu le siège apostolique de la vraie Église, l'une, sainte, catholique, apostolique et palmarienne, également appelée l'Église chrétienne palmarienne des Carmes de la Sainte Face. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de la papauté au Palmar de Troya. Le pape Saint-Pierre II le Grand. De Crucet Apocalyptica. 21 mars 2005 au 15 juillet 2011. Dans le siècle, Manuel Alonso Corral, et plus tard l'évêque, Père Isidore Marie. Il est né à Cabeza del Buey, Badajoz, en Espagne. Il était secrétaire d'État pendant tout le pontificat du pape Saint Grégoire XVII et cofondateur de l'Ordre des Carmes de la Sainte Face. Le 24 octobre 2000, le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand l'a nommé comme son successeur de la cathèdre de Saint-Pierre. Le pape Saint-Pierre II, avec un courage vigoureux, a guidé le troupeau de l'Église catholique palmarienne. Avec un véritable engagement et une fidélité au plan divin, il s'est chargé de finaliser la publication de la Sainte-Bible palmarienne et d'autres documents sacrés. Parmi ces derniers, ses lettres apostoliques et les messages du Palmar sont remarquables. L'histoire palmarienne de l'Église est également le fruit de ce glorieux pontificat. Il a infailliblement défini que l'Antéchrist était né en l'an 2000 à Bethléem. La même ville dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est né. Le pape Saint-Pierre II le Grand est mort dans la sainteté dans le lieu sacré du Palmar de Troya le 15 juillet 2011. Ex-pape Grégoire XVIII l'Apostat. Receptor Christi. 15 juillet 2011 au 22 avril 2016. Dans le siècle, Ginéresus Hernández Martínez. Il est né à Puebla de Mula, dans la région de Murcie, en Espagne. Il a rejoint l'ordre en 1984, devenant plus tard le Père Serge. Saint-Pierre II l'avait comme secrétaire d'État et l'a nommé successeur de la papauté. Par son infidélité envers Dieu, ce pape a malheureusement apostasié de l'Église en avril 2016, 3 ans après avoir désigné son secrétaire d'État, le très révérend Père Élisée Marie, comme son successeur dans la papauté. Sa sainteté le pape Pierre III. De Gloria Ecclesia. Du 22 avril 2016 jusqu'à présent. Dans le siècle, Marcus Joseph Odermatt, plus tard, l'évêque Père Élisée Marie. Il est né à Stans, dans le Nidwald, en Suisse. Il est un descendant de Saint Nicolas de Flux, un ermite du XVe siècle, vénéré en Suisse comme le père de son pays. La seule nourriture de Saint Nicolas pendant 20 ans était la Sainte Communion. Il a réussi à libérer son pays d'une guerre civile désastreuse et a miraculeusement aidé la Suisse de rester en dehors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Le drapeau du canton de Nidwald porte l'emblème papal des clés du royaume des cieux en l'honneur de son patron, l'apôtre Saint-Pierre. L'évêque Élisée Marie a rejoint l'ordre des Carmes de la Sainte Face en 1985 et il était missionnaire en Amérique du Sud pendant 18 ans. Il était secrétaire d'État pendant tout le pontificat de l'ex-pape Grégoire XVIII. En 2013, l'ex-pape Grégoire XVIII l'a désigné pour lui succéder à la cathèdre de Saint-Pierre. Le pape Pierre III a maintenu le nouveau calendrier de la Semaine Sainte Palmarienne, qui tous les ans commencera le 20 mars et finira le 27 mars avec la commémoration du dimanche de la résurrection, donc le 25 mars, le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sera toujours en commémoration du Vendredi Saint, indépendamment du jour de la semaine où il tombe. Dans un monde d'apostasie générale, Sa Sainteté le Pape Pierre III, en tant que bon pasteur des âmes, à travers ses lettres apostoliques, défend et proclame courageusement la doctrine et la morale sacro-sainte, combattant ainsi l'erreur et toute autre dégénérescence morale. Depuis le désert mystique du Palmar de Troyes, Sa Sainteté le Pape Pierre III, en tant que véritable vicaire du Christ, continue de paître le troupeau de l'Église une, sainte, catholique, apostolique et palmarienne, lui confiée par son divin fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans un monde d'apostasie générale, ce grand caudillo del Tajo combat fermement et courageusement les erreurs et les aberrations du moment, préparant ainsi l'Église aux prochains événements apocalyptiques, qui aboutiront à la seconde glorieuse avènement du Christ, maintenant très proche. L'Église palmarienne, en tant que précurseur par excellence, prépare le retour du Christ pour établir son royaume messianique sur terre, luttant vaillamment en cette ère apocalyptique contre les erreurs et les fraudes semées par Satan, qui ne tardera pas à se faire connaître publiquement comme l'Antéchrist, l'homme d'iniquité.